السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل جلسات دوراتنا في هذا المسجد، مسجد أهل السنة في مدينة غرنوبل، وبين إخواننا حفظهم الله جميعا. ومجالسنا اليوم ستكون الآن بعد العصر، ونستمر إلى غاية بعد صلاة العشاء إلى الساعة 9 بتوقيت هذه البلاد. وبيننا كتاب الأدب من كتاب رياض الصالحين الحافظ النووي رحمه الله تعالى. توقفنا عند قوله: باب الاستئذان وآدابه. والاستئذان هو طلب الإذن بالدخول، سواء كان دخول إلى بيت أو إلى غرفة أو إلى غير ذلك مما يحتجب الإنسان عن فعله إلا بإذن، حتى لا يخل بآداب أهل الإسلام في الدخول على الغير دون إذن، فإن في هذا مفسدة. قال الحافظ النووي: قال الله تعالى: أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم غير مستأنسين وتسلموا على أهلها. في هذه الآية بيان من الله تعالى لأهل الإسلام جميعا. إذا سمعت في القرآن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا، فاعلم أن هذا نداء خاص لأهل الإيمان ليس لغيرهم، نداء للمؤمن. فيقول ابن مسعود: إذا سمعت قول الله تعالى: أيها الذين آمنوا، فرعي سمعا لما بعدها، فإنه نداء لك أيها المؤمن. فإن أمرك الله تعالى بأمر فانظر هل ائتمرت به من قبل، نعم عليك من الله، استمر. إذا لم تكن مؤتمرا به فأتمر به من الآن. وإذا نهاك الله تعالى بعد هذا النداء عن أمر، فإن كنت منتهيا عنه الحمد لله، هذا خير عليك، استمر. إن لم تكن منتهيا فانتهي عنه. هنا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا، أي لا تقدموا على الولوج غير بيوتكم. بيوتك هذا بيتك أستاذ، أنت مستأنس فيه ومفتاح بيدك، حتى تستأنسوا، أي تجدوا أنسا فيها، أي قبولا لدخولكم، وتسلموا عليها. عليها إذا دخلتم لابد أن تسلم. قال: وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو خير لكم. ده قال يعني صاحب البيت: اعذرني بارك الله فيك، خلاص تعذره ترجع، هذا خير، ولا تصر على الدخول لأن قد يكون في ذلك مضرة عليه. وسيأتي معنا في باب كتاب في باب الاستئذان آثار كثيرة أوردها الحافظ، وهي آثار من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والمؤمن أمر باتباع ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، بفهم السلف الصالح. قال في الآية الأخرى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. يعني الطفل الصغير الذي لم يبلغ سن الحلم وهو البلوغ، إذا ولج على أحد من أهل البيت، والديه أو غير ذلك، فهذا معفو عنه، لأنه لا يعقل ويلج على هذا وهذا كالدعابيس يدخلوا من هنا وهنا لا حرج عليهم. لكن إذا بلغ الحلم لا يجوز له أن يدخل إلا بالاستئذان حتى لا يكشف عورة ولا يدرك محظور. هذا من آداب الإسلام، وهذا فيه دلالة الاستئذان من كتاب الله في الآية الأولى وفي الآية الثانية. قل حتى يستأذنوا، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، أمر فليستأذنوا، يعني طلبوا الأذن، يطلب الأذن كربع خبط على الباب، السلام عليكم تفضل يدخل، عليكم السلام خل يدخل، أي يعني وصيغة تدل على رغبته في الدخول. وخير الاستئذان يسلم السلام عليكم وهكذا. وسأرد معنا إن شاء الله في الباب أيضا أحاديث. تفضل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Le cheikh Hafidha Allah Ta'ala passe son introduction. Il explique que nous sommes toujours dans le livre des adab de Riyad Salihin lié à ce qui était au adab que le musulman doit respecter dans sa vie quotidienne. Et nous sommes à présent, par la grâce d'Allah Ta'ala, Ta'ala sur nous, dans le chapitre lié à la demande de permission d'entrée. C'est-à-dire que lorsque l'individu souhaite rentrer dans un certain endroit, il y a un adab dans lequel, par lequel on demande la permission aux gens séjournant dans ce lieu, la permission de pouvoir rentrer. Et le cheikh, hafidhahullah ta'ala, il dit donc al-isti'dan, c'est en fait la demande d'entrée, c'est-à-dire le fait de demander la permission pour pouvoir entrer dans un endroit. Et ceci, c'est parmi les comportements que le musulman applique, que ce soit dans sa maison, dans une maison ou dans une chambre dans laquelle il veut rentrer, afin de ne pas contrevenir au comportement islamique, ce qui provoquerait des mauvaises conséquences. Et il ramène le premier verset dans la traduction approximative du sens « est ». « Ô vous qui croyez, ô vous qui avez cru, n'entrez pas dans des maisons autres que les vôtres avant de demander la permission et de saluer leurs habitants. » Le cheikh, hafidhahullah ta'ala, il explique que déjà le fait qu'Allah azzawajal, quand il commence un verset par « Ya ayyuhalladhina amanu » yani « Ô vous qui avez cru, ô vous qui avez la foi », ce verset donc s'adresse aux croyants. C'est une allocution qu'Allah azzawajal, yani, dirige vers les croyants de façon spécifique. Et il ramena à Afa de Abdallah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu sur l'importance de prêter attention au fait que quand Allah azza wa jalla dit oh vous qui avez cru, prête attention et sois attentif à ce qui va être dit par la suite, car il se peut que ce soit déjà un ordre sur lequel tu es déjà et alhamdulillah continue, et si alors c'est un ordre sur lequel qui ne t'était pas parvenu précédemment, dans ce cas là mets-le en application, et si c'est un interdit qui t'était, sur lequel tu étais déjà, yani dans le fait que tu t'écartais déjà de cet interdit là, continue dans ce que tu fais, et si c'était un interdit sur lequel tu n'étais pas encore averti, à présent, donc écarte-toi de cet interdit qui t'est parvenu de la part d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et le cheikh, il explique que donc dans le verset, le fait de demander la permission, c'est le fait que tu n'entres pas dans la maison tant que tu n'as pas obtenu permission. C'est pas tu toques et tu rentres. Non, tu demandes la permission et tu manifestes ton désir d'entrer chez ces gens et tu attends d'avoir reçu leur permission avant de t'introduire chez eux. Et si jamais il t'est imposé par les gens résidant dans cette bâtisse de retourner, c'est-à-dire qu'ils te disent je ne veux pas que tu rentres et qu'ils te demandent de repartir d'où tu viens, dans ce cas-là, tu dois repartir d'où tu viens, ceci fait partie du comportement, et ne pas insister. Et le cheikh Hafidhahullah, il dit que donc on va s'inspirer des versets et des ahadiths, des athar, de ce qui nous est parvenu de la part de la révélation, avec la compréhension des salaf salih, les pieux prédécesseurs de cette communauté. Et après le cheikh Hafidhahullah, il ramène un autre verset dont la traduction approximative du sens est la suivante. Et quand les enfants parmi vous atteignent la puberté, qu'ils demandent permission avant d'entrer, comme le font leurs aînés. C'est-à-dire que les enfants, lorsqu'ils ne sont pas encore pubères, ils n'ont pas atteint l'âge de la puberté, ils n'ont pas l'âge de discernement, ils ne discernent pas les choses, ils vont et ils viennent et ils ne demandent pas la permission et ils n'ont pas à le faire. Parce qu'ils n'ont pas l'âge, ils n'ont pas encore l'intellect, ils n'ont pas encore ni la capacité de distinguer les choses. Ils ne font pas attention à ce qui se passe autour d'eux. Ils rentrent, ils sortent, etc. Et il n'y a pas de mal à cela. Cependant, lorsque l'enfant atteint l'âge de la puberté, il se doit alors d'appliquer le adab de ses aînés, c'est-à-dire ceux qui sont pubères parmi les gens de la maison, et alors demande la permission avant d'entrer, afin que ne découle pas un mal, comme par le fait que par exemple l'enfant soit amené à voir la personne avec une aura découverte, c'est-à-dire qu'il se peut que quelqu'un soit en train de se changer, mathalan, et que sa aura, sa nudité, ses parties intimes soient découvertes, et l'enfant, s'il rentre sans permission, il se peut qu'il soit amené à voir les parties intimes d'une personne parmi les membres de sa famille, ce qui n'est pas approprié pour cet enfant-là. Et donc, une fois qu'on demande, ils demandent la permission, après ils entrent. Et le fait de demander la permission, Allah Azzawajal dans le Coran nous l'a ordonné. C'est-à-dire le fait de demander la permission, ne rentrez pas tant que vous n'avez pas demandé la permission. Donc c'est un ordre qu'Allah Azzawajal nous a intimé, subhanahu wa ta'ala. Et le fait de demander la permission peut se manifester. Parmi elles, le cheikh il a donné une ishara, le fait de toquer. Le fait de toquer est une manière de manifester son désir d'entrer dans un endroit.
الاستئذان الذي ذكرنا في الآية التي مضت معنا هذا استئذان للبيوت دخول البيت وهذه استأذن فيها من سيدخل من بلغ الحلم هناك موضع أشد حصانة وتحفظا فلا يدخل إليه حتى الصبيان الصغار حتى الأطفال وهو ثلاث مواضع ثلاث أوقات وهذا يكون في داخل البيت في غرف النوم التي فيها يكون تكشف عورات للرجل المرأة غير ذلك وهذا مما أباح الله تعالى إذا الإنسان خلى بمخلى غرفة على زوجته وهكذا تخفف من الملابس وربما تبدو عورته فهنا لابد أن يستأذن حتى الأطفال الصغار قال تعالى أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم هنا أيضا ملك اليمين الأمة والعبد لا يدخل على سيده ولا سيدته في غرف النوم ثلاث أوقات هذه ثلاث أوقات إذا أراد يدخل لابد أن يستأذن غير هذه ثلاث أوقات لا بأس إذا دخل في الغالب تكون مأمونة قال ليستأذنك الذي ملكت أيمانك والذين لم يبلغوا الحلم إذا الصغار كذلك ثلاث مرات يعني ثلاث أوقات هذه يستأذن فيها لابد الأولى قبل صلاة الفجر لأن قبل صلاة الفجر كل إنسان نايم في غرفته فهنا تبدو عوراتي قد تبدو عوراتي فلا بد من استئذان تنبيه الوقت الثاني حين تضعون ثيابكم من الظهيرة يعني عند قرب الظهر تعابد الشمس حرارة الإنسان يضع ملابسه تخفف من الملابس لشدة الحر وغير ذلك أيضا لا بد من استئذان الوقت الثالث بعد صلاة العشاء بعد صلاة العشاء بالغالب الإنسان ينام فهنا لا بد من استئذان في هذه الثلاث الأوقات قال تعالى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن يعني لا يظهر لا تظهر المرأة زينتها ومما تتزين به يعني من المغلبة إلا بهذه الشروط ولا تكون إلا عن زوج وغير ذلك قال إلا ما ظهر منها يعني في الغالب مما يكون بين النساء وبين المحارم وغير ذلك أو من عمومات ما يظهر دون قصد قال إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن هذه الآية تحتاج إلى تفسير وبيان خاصة إذا كان عندنا من الأخوات من يسمع قول وليضربن بخمرهن الضرب هو التغطية والخمار لا يكون إلا على الرأس بالغالب الأصل الخمار يكون على الرأس المرأة لما تختمر تريد أن تختمر تضع خمارها على رأسها يعني معنى حجاب هذا تعجب جسمها كله فيقول وليضربن بخمرهن على جيوبهن أين الجيب؟ الجيب هنا هذا عند العنق تحت الوجه هذا يسمى جيب طيب يقول فليضربنا بخمرهن على جيوبنا يعني تغطي بالخمار جيبها طيب كيف تغطي جيبها؟ إذا لابد أن تسد الخمار على الجيب تغطي الجيب إذا سيمر بماذا؟ بالوجه ليس معنى أن تأخذ الخمار وتغطي الجيب وتخلي الوجه مكشوف لا وإذا كان أمر بستر الخمار الرأس وستر الجيب فهنا الجمال والفتنة أقل. الفتنة تكون أكثر وين؟ في الوجه، في العينين خاصة. كيف يقول له استري هذا واستري هذا وخلي هذا الوجه؟ هذا لا ينضبط. إذن لابد من غطاء الوجه أيضا قبل غطاء الجيب، لأن ستمر بالخمار على جيبها فتغطي وجهها. هذا دلالة، هذا دليل أهل العلم الذين يقولون لابد من المرأة أن تغطي وجهها عند غير المحارم، وإلا فهي منتهكة حرمة الله تعالى وليست متسترة، وعليها إثم كشف وجهها عند غير محارم وتأثم على ذلك. وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، يعني الزينة المغلظة التي هي للمرأة لا تبديها إلا لزوجها أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، الطفل الصغار اللي ما يعرف شيء من عورات النساء. لكن ينظر، المسألة لا تقيد بسن معينة، قد يكون الطفل عمره 5 سنوات هذا ما يفرق عورات النساء في الغالب، أو 4 سنوات، لكن قد يكون هذا الطفل في هذا السن جالس أناس يهتمون بالعورات ويقول له شوف هذا شوف هذا حتى يألف العورة فيدقق فيها، هذا يمنع مع صغر سنه. والأصل أنه يعني يظهر على عورات النساء، لكن صار عنده تطلع من دربة مع فئة ممن يفسدونه فهذا يمنع. إذن القيد هنا في المنع يعني حصول مفسدة، حصول مفسدة، وإن كان سنا في الغالب أنه لا تحصل المفسدة لبيئة عاشر فيها من أفسد فطرته، وهذا يحصل كثير. أو الطفل الذي لم يظهروا على عورات النساء، يعني هؤلاء كما ذكر الله تعالى فإنهم يعذرون. فهنا بيان أن حاصل هذه الآية أنه إذا بلغ الطفل الحلم، يعني البلوغ، سن البلوغ، وقد يكون بالحلم وقد يكون ببلوغ سن أو بإنبات الشعر، فلا يدخل البيت، هذا البيت عام، إلا باستئذان. وإذا اطلع على عورات النساء وصار يتكلم وصار له يعني معرفة ونباها، فإنه يمنع حتى في داخل البيت، وإن كان أيضا صغير السن ودون البلوغ، ذاك بالبلوغ عند الباب برا البيت، لكن الداخل إذا وصل يعني مرحلة النباهة تفريق هذا يمنع حتى لو كان داخل البيت، وخاصة الأوقات الثلاثة التي ذكرها. نعم. عند ما يضع الملابس
الحر،
وقت الحر الغالب الناس تخففون ملابسهم، هذا وقت الظهيرة، وقت الظهيرة
قبل الخروج أو في البيت؟
لا، وقت الظهر في البيت، هذا كله في البيت ما له علاقة، بس داخل البيت.
نعم.
وقت الظهر
في هذا الوقت يعني يرفعون بعض اللباس، يخففون من اللباس. لا يجوز حتى الصبيان، هذا الصبيان الذي لا
يمنع
إلا بإذن،
إلا باستئذان.
Le Cheikh Hafidhahullah Ta'ala, il procède dans la suite des explications par rapport aux différents adabs qui sont liés au comportement dans la permission d'entrée. Il explique, Hafidhahullah, que les versets qui ont été abordés abordent les comportements lorsqu'on veut s'introduire dans une maison, la demande de permission pour s'introduire dans une maison, pour les gens qui sont pubères, qui ont atteint l'âge de la puberté. Mais il y a un certain moment où même pour l'enfant qui n'est pas encore pubère, même lui, dans ces cas, dans ces situations-là, dans ces trois situations-là, ces trois temps précis, il se doit de demander la permission, on ne laisse pas rentrer librement. Et il explique que c'est lié à la chambre à coucher, par rapport au fait qu'il y a certains moments, dans certains endroits de la maison, par exemple, comme la chambre à coucher qu'il a cité comme exemple, Hafidhahullah, yani c'est des moments où la personne peut être amenée à avoir une nudité yani légèrement affichée, où on peut voir des choses de lui si on venait à rentrer sans permission, c'est-à-dire de rentrer de manière subite. Et il dit que ces trois temps, c'est le premier temps, c'est avant Salat al-Fajr. Pourquoi? Parce qu'avant Salat al-Fajr, c'est le temps où la personne, en général, est encore en train de dormir. Donc de ce fait, dans ce temps-là, c'est un des temps où même le petit se doit de demander la permission avant d'entrer. Pourquoi? Parce qu'il pourrait être amené à voir que les gens qui sont justement dans leur lit, il y en a une envoie découverte. Car ils peuvent être amenés dans ces moments-là à avoir une nudité qui est affichée. Le deuxième temps, c'est le temps de Dhuhr. C'est un temps où il fait très très chaud et souvent les gens s'allègent en matière de vêtements. C'est pas qu'ils se mettent nus, mais des fois ils s'allègent de manière qu'il ne faudrait pas qu'un enfant rentre sans permission et qu'il rentre de manière subite car il sera amené à voir des choses qui seraient inappropriées pour lui de regarder. De plus, il a rapporté que le troisième temps, c'est le temps après Salat al-Isha. Car c'est le temps où en général les gens dorment. Donc de ce fait, c'est un temps où la même cause est présente, c'est-à-dire le fait que les personnes sont souvent amenées à dormir et donc souvent ont la nudité qui est découverte, partiellement ou totalement découverte. Et de ce fait, il est inapproprié de rentrer sans permission car on pourrait être amené à regarder des choses qu'on n'a pas le droit de regarder dans ces situations-là. Après, le Cheikh Hafidhahullah Ta'ala, il a ramené le... شيخنا يعني الآية الذي ذكرتم يعني 31 من سورة النور صحيح؟ Et le cheikh il a ramené le verset dans la traduction approximative et la suivante et dit aux croyantes de baisser leur regard, de préserver la chasteté, de ne pas montrer leurs atours que ce qui en apparaît. Elles rabattent leur voile sur leur poitrine. Et le cheikh il dit que là il y a besoin d'un tafsir par rapport à ça. C'est-à-dire que les femmes ne doivent pas exposer leur parure, c'est-à-dire leur beauté. Et elles ne doivent pas l'exposer à l'exception de ce qui en apparaît, et c'est-à-dire ce qui en apparaît entre elles, entre femmes. Car les femmes n'ont pas la même aura quand c'est des hommes avec des hommes étrangers, et quand c'est, elles ne doivent pas couvrir les mêmes choses quand elles sont entre femmes ou quand elles sont avec des hommes qui leur sont étrangers. De ce fait, il dit, sauf ce qui en apparaît, c'est-à-dire entre femmes, ou des fois ce qui en apparaît par erreur, involontairement. Et le shir, il donne un tafsir mufid, une fa'ida par rapport à ce verset-là. C'est par rapport au fait que lorsqu'Allah Tabaraka wa Ta'ala dit, dans la traduction approximative du sens de sa parole, Azza wa Jal, qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine. Il dit qu'à la base, le fait de rabattre leur voile, le mot khimar, en fait, dans la langue arabe, ça désigne un voile qui se trouve au niveau de la tête. Et de ce fait, le rabattre sur la poitrine, ça va amener qu'elles rabattent un morceau de vêtement qui se trouve au niveau de leur tête jusqu'à leur poitrine. Ce qui va impliquer quoi? Le fait de couvrir par le même processus le visage. De ce fait, le shir dit que ce verset-là est une preuve que les ulémas utilisent pour prouver l'obligation, le caractère obligatoire pour la femme qu'elle couvre son visage. C'est-à-dire qu'elle couvre son visage, qu'elle cache sa poitrine. Il dit pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'elle est la plus grande source de fitna chez une femme? En premier lieu, c'est son visage. C'est une source de tentation pour l'être humain. De ce fait, elle se doit de couvrir son visage. Et il dit, il n'est pas légiféré, donc, de couvrir sa tête, de laisser son visage, de le contourner par un vêtement, puis après de couvrir sa poitrine. Il dit ce n'est pas correct. Le visage doit être couvert. Et le dalil, c'est le verset de Surat Nour, le verset 31. Et donc, il dit que la femme qui viendrait à dévoiler son visage et à sortir et à présenter son visage à des gens à qui elle ne peut pas montrer son visage, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas des maharim, qui sont des étrangers à elle, elle serait alors, en vertu de ce verset venant d'Allah Azzawajal, elle serait, par rapport à ce verset-là, pécheresse. Elle serait donc dans un péché. Et le cheikh Hafidhahullah Ta'ala, il dit que par rapport à certains enfants qui n'ont pas atteint le boulogh, il dit déjà le boulogh parmi les signes qui font que l'enfant est considéré comme ayant atteint la puberté, il y a l'âge, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain âge, ou certains signes physiologiques, c'est-à-dire des signes qui sont liés à son physique, c'est-à-dire par exemple parmi elles, le fait que l'enfant ait l'apparition des poils pubiens, c'est parmi les signes qui font que l'enfant est considéré comme étant pubère. De ce fait, il dit que même un enfant des fois qui peut être en dessous de la puberté, il peut être obligé de demander tout le temps la permission. Pourquoi? Parce que des fois, il y a des enfants, à cause de la compagnie de certaines personnes, ils ont été amenés à être très vite conscients de qu'est-ce que c'est la nudité des gens. C'est-à-dire qu'un enfant, si on lui dirait, il ne comprend pas ce que c'est la nudité. Il rentre, il sort, il n'a pas conscience de ces choses-là. Mais des fois, à cause de son entourage, il est amené à devenir conscient de qu'est-ce que c'est la nudité des gens. Et donc lui, cet enfant-là, on a un comportement particulier avec lui parce qu'il a été influencé par l'entourage des gens qui sont plus vieux que lui vis-à-vis de ce qui est des nudités et de certaines choses que, à la base, l'enfant ne fait pas attention à ces choses-là. Non,
قال بعد ذلك وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع يعني إذا جيت تريد أن تدخل بيت سواء كان الباب مغلق أو مفتوح لا تدخل إلا بعد استئذان، وتستأذن ثلاث مرات وتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أأدخل؟ كان الباب مفتوح. أأدخل؟ يعني تأذن لي بالدخول. هذه المرة الأولى، ثم تنتظر على قدر ما يكون الإنسان يصلي أربع ركعات، ثم تقول أيضا بعد ذلك مرة ثانية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتأذنوني بالدخول؟ بهذه اللفظة، أتأذنوني بالدخول؟ أدخل؟ إذا ردوا عليك وإلا أصبر. أيضا على قدر أربع ركعات يصليها واحد، لأنه قد يكون يصلي لي. ثم تقول ثالث مرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أدخل؟ وتنتظر على قدر ما قلنا. فإن أذن لك في هذه المدة أدخل، إذا لم يؤذن لك انصرف. ولا تقول أنت عند الباب مرة الأولى والثانية والثالثة سمعت هذا الكلام ولم يؤذن لك، وتسمعهم يتكلمون، ترفع تعرف صوت فلان وفلان، تقول يا فلان اسمع صوتك أنا، ليش ما تأذن لي؟ لا، ما يجوز لك هذا، ما يجوز. لا تحرج أحد، لأن الله تعالى يقول وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا وخير لكم، خير لك للمستأذن والمستأذن. إذا قال لك ارجع، وقد لا يقول لك ارجع لكن يسكت، وهذا عدم إذن بالدخول، فلا تدخل. هذا باب الاستئذان، هذا باب مهم جدا. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين، جاء أبو موسى الأشعري، أظن أبو نعم أبو موسى الأشعري، إلى منزل أمير المؤمنين، وكان أمير المؤمنين، فاستأذن الأولى واستأذن الثانية واستأذن الثالثة فلم يؤذن له فانصرف. وكان عمر في شغل، فظن أنه سيمكث أكثر من هذه المدة، فخرج فلم يجده، غضب رضي الله تعالى عنه عليه، فذهب. قال ما لك تستأذن ثم تذهب؟ قال استأذنت كما أذن للرسول، يعني كان الرسول ثلاث مرات استأذن بس. عمر رضي الله عنه على مقامه الرفيع ومنزلته من رسول الله ما اطلع على هذا الحديث، قال هكذا قال رسول الله؟ قال نعم. قال تأتيني بمن يشهد ولا أشبعتك ضربا ولي أمر؟ فذهب إلى قوم من الصحابة رضي الله عليهم وهم جلوس، قال حصل معي مع أمير المؤمنين كذا كذا كذا، قال والله ما يذهب معك يشهد إلا أصغرنا سنا، لأن اطلع على الحديث. فذهب معه وشهد بهذا، قال نعم يا أمير المؤمنين حضرنا عند رسول الله وقال كذا كذا، قال جزاكم الله خير، أذن الآن عرف الحق فانصرف. إذن إذن هذا قد يخفى على بعض الفضلاء، لكن الإنسان إذا علم أمر في الشرع لا بد من التمسك به والعمل به. هذا في الحديث الأول. الحديث الثاني قال وعن سهل ابن سعد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، يعني الاستئذان مش مشان الدخول فقط، أيضا مشان البصر، بمعنى أنك حين تستأذن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدخل، تكون بعيد من الباب، لا تتفرج في ما يجوز الإذم البصر، أو لا تقف أمام الباب وهو مفتوح، تنحى جنب، لا تنظر البيت، ممنوع أنت الآن دخولا وبصرا أيضا، فلا يجوز ذلك. وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من تطلع على الناس من خلال خزاق هذا جاز له أن يأخذ إبرة ويخزق عينه، وليس له على هذا الفعل قصاص ولا شيء، هو متعدي. إذن الاستئذان ليس للكلام بس أو الدخول فقط، أيضا للنظر، ما يجوز تنظر أيضا، فأنت ممنوع من الدخول وممنوع أيضا من النظر إلى داخل البيت. هذا معنى كلام الرسول إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، يعني هذا أعظم من اللي هو، متفق عليه. قال وعن ربعي بن خراش رضي الله عنه قال حدثنا رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي عليه الصلاة والسلام وهو في بيت يعني في بيت من بيوته عليه الصلاة والسلام. فقال هذا يريد أن يستأذن على الرسول أن يدخل. فقال أألج أدخل؟ فبدأ بيش بقول أألج أدخل، ترك إيش هنا؟ السلام. هذا ما عرف الاستئذان، هذا أخطأ في طريقة الاستئذان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه في البيت، قال اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، علمه كيف يستأذن، فقل له قل السلام عليكم قبل أن تقول السلام أدخل. هكذا يعلم الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة الاستئذان تعليم عملي. فسمعه الرجل من برا وهو يخاطب خادم الرسول، فقال السلام عليكم أدخل. الآن جاء بالطريقة الصحيحة، فأذن له الرسول عليه الصلاة والسلام فدخل. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن كلدة بن الحنبل ابن الحنبل رضي الله عنه قال أتيت النبي عليه الصلاة والسلام فدخلت عليه ولم أسلم، لا سلام ولا أدخل، دخلت عليه ولم أسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فقل السلام عليكم أدخل. فرجع وقال السلام عليكم أدخل، فأذن له الرسول دخل، وإن لم يأذن له ينصرف. هذه آداب الإسلام، ما أعظمها آداب، آداب عظيمة. الناس اليوم كثير ما يخالفون هذه الآداب لأنهم لم يعلموا السنة العظيمة التي يربي الله تعالى عباده عليها، والتي فيها حفظ لدينهم وأخلاقهم وأمور دنياهم. فينبغي الإنسان يتعلم هذه ويعلم أهله أولاده جيرانه إخوانه كل ما حيث، والله اليوم رحنا درس كذا كذا كذا، تعلم آداب الإسلام، هذه آداب عظيمة. نعم.
Le Cheikh Hafidhahullah Ta'ala, d'abord à présent le premier hadith dans ce chapitre. Le hadith d'Abu Moussa al-Ash'ari, radiallahu ta'ala anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la demande d'entrée est de trois, et soit on te permet de rentrer, soit tu retournes. Le sens de retourner, c'est-à-dire que tu reviens sur tes pas, tu reviens d'où tu viens. Donc, on tire de ce hadith que la demande d'entrée est de trois. Mais le Cheikh, il va expliquer que c'est pas trois demandes d'affilée successives, puis pas de réponse, tu rentres. Non. Le Cheikh, il explique, si tu te rends dans une demeure, que la porte soit ouverte ou non, tu ne rentres pas. Tu te dois d'abord de demander la permission. Tu passes au salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Puis, tu dis, puis-je entrer? Tu demandes la permission, tu as passé le salam, tu as demandé la permission d'entrer. Puis, le Cheikh, il a dit, tu attends, on te donne la permission. Si on ne t'a pas donné la permission, tu peux attendre de la mesure d'à peu près le temps qu'un homme met pour prier 4 rakas, une salat de 4 rakas. C'est-à-dire ce temps-là à peu près, c'est ce temps que tu attends jusqu'à tu demandes une deuxième fois. La deuxième fois, tu dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Me donnez-vous la permission d'entrer, puis-je entrer? Puis tu attends à nouveau. Si il ne t'est pas donné permission, tu attends de la même mesure de temps, c'est-à-dire le temps qu'un homme mettrait pour à peu près prier 4 rakas. Et ensuite, tu demandes une troisième fois. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Puis-je entrer? S'il t'est donné permission, tu rentres. S'il ne t'est pas donné permission, alors dans ce cas-là, tu repars de où tu vas, d'où tu viens, pardon. Et le Cheikh, il a abordé donc les adabs à avoir. Il a aussi notifié des adabs à ne pas avoir dans ce genre de choses. Car certaines personnes, qu'est-ce qu'ils font? Ils se rendent chez quelqu'un, ils appliquent le adab de la demande d'entrée, mais ils ne leur ont pas accordé la permission d'entrer. Mais ils entendent que les occupants de la maison, ils sont en train de parler. Donc ils sont présents, ils sont éveillés et ils ont conscience qu'ils se trouvent devant la porte. Et qu'est-ce qu'ils lui disent? Ils disent, oh Foulain, toi, un tel, je t'entends, pourquoi tu me repars, pourquoi tu ne me laisses pas rentrer? Il dit, ça c'est pas un adab. Ça ne fait pas partie du comportement du musulman. Le musulman demande la permission avec le bon comportement, et si, pour une raison ou pour une autre, il ne lui est pas donné permission, il retourne d'où il vient. Car Allah Azzawajal nous a dit dans la traduction approximative du sens de sa parole, subhanahu wa ta'ala, et si on vous dit repartez, et en y retournez, alors retournez, ceci est un khair pour vous, c'est un bien pour vous. Donc, le musulman applique ce adab dans la demande de permission pour entrer, et s'il ne lui est pas accordé, il ne dispute pas avec la personne s'il entend qu'elle est dedans, il repart d'où il vient, et c'est un khair pour lui, et c'est l'adab qu'Allah Azzawajal nous a enseigné. Et il donna l'exemple avec une qissa, un hadith, un athar, qui est rapporté d'une altercation qui eut, enfin, une anecdote qui eut lieu entre Omar ibn Khattab durant son califat, c'est-à-dire quand il était au pouvoir et qu'il gouvernait les musulmans, et Abu Musa al-Ash'ari, le sahabi al-Jalil. Abu Musa se rendit à la maison de Omar ibn Khattab et demanda la permission de rentrer. Il le fit une fois, puis une deuxième fois, puis une troisième fois. Puis, au bout que la troisième fois, il n'eut pas permission, il repartit d'où il vient. Omar ibn Khattab était occupé. Donc, il pensait que la personne qui avait demandé permission d'entrer allait attendre. Et quand il vit que la personne n'avait pas attendu, il vient le voir et lui demanda des comptes. Il lui dit, comment ça se fait que tu demandes permission d'entrer chez quelqu'un et tu ne restes pas pour attendre qu'on te donne permission? Il lui dit, j'ai appris cela du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que tu demandes permission trois fois et s'il ne t'est pas accordé permission, donc tu repars d'où tu viens. Omar ibn Khattab lui dit, ramène-moi un témoin qui témoigne et qui soutient sur ton témoignage que tu rapportes du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et si tu échoues dans cela, je te frapperai. C'est le gouverneur des musulmans. Non, celui qui applique les peines en terre d'islam, c'est le gouverneur. Donc il le menaça. S'il n'avait pas un témoin qui le supportait dans ce qu'il prétendait de la part du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Musa al-Ash'ari parvint à ramener un témoin qui soutenait son témoignage vis-à-vis de ce qu'il rapportait du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et Omar ibn Khattab fut reconnaissant à son égard pour lui avoir enseigné une chose qui lui avait échappé de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le shir attire l'attention sur le fait qu'il peut arriver qu'une personne parmi les gens de noblesse, soit il y a une chose de la sharia qui lui échappe, mais une fois que la preuve lui est parvenue, alors dans ce cas-là, elle accepte la vérité et elle se soumet et elle applique ce qui est conforme à la vérité. Elle estime ensuite par rapport au hadith, le deuxième hadith du bab, qui est le hadith de Sahl ibn Sa'd radhiyallahu ta'ala anhu, qui dit que la permission d'entrer, c'est par rapport aussi au regard. C'est-à-dire que le fait de demander la permission d'entrer, c'est pour protéger aussi le fait qu'on nous a interdit d'entrer sans permission, mais il nous est également il vous est également interdit d'observer. C'est-à-dire que par exemple, celui qui voudrait regarder par le trou de la serrure, il est interdit de faire ça. Il y a des gens, par exemple, ils veulent savoir s'il y a quelqu'un, etc. Et pour une raison ou pour une autre, il va observer par le trou de la serrure ou il va essayer d'observer ce qui se passe dans la maison. Il dit ça, c'est interdit. À tel point qu'il est rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith que celui qui observe par un trou qui aurait au niveau de la porte, qu'il observe par ce trou-là et que l'habitant de la porte lui crève l'œil par rapport à le fait qu'il a observé, il a essayé d'observer ce qu'il y a dans sa maison, il n'a pas à rendre de compte pour avoir fait ça. شيخ انا اذا وجدنا يعني حفره في الباب وانا استاذن ثم انظر فيه صاحب البيت ينقطع يعني عيني لا عليه شيء
معلش
وهو صاحب البيت
الذي
وهو صاحب البيت
الذي نعم صاحب البيت
لا جزاك الله خير الله يحفظك بارك الله فيك نعم Donc comme le Cheikh a confirmé, Hafidhullah, donc ce qui est rapporté du prophète, ce qui est rapporté authentiquement du prophète, c'est que si une personne vient à observer par le trou de la serrure, le trou dans une porte, pour observer ce qui se passe dans la maison, et que l'occupant de la maison vient en réaction à lui crever l'œil, en réaction de cette personne en essayant d'espionner dans sa maison, alors il n'a pas de compte à rendre, c'est-à-dire il n'a pas commis de péché, etc. Naam. Et donc, de ce fait, l'interdiction dans la charia par rapport au adab, il nous est interdit d'entrer sans permission et il nous est interdit d'observer ce qui se passe dans la maison sans permission. Et de ce fait, le shir dit, on n'observe pas dans les trous de la serrure, on n'observe pas dans les ouvertures qui se pourraient se trouver dans la porte. Et également, tu ne te mets pas face à la porte, tu te mets sur le côté. Tu te mets sur le côté de telle sorte que la porte, si elle s'ouvre, tu ne vois pas forcément ce qui se passe dans la maison. Et le shir, il rapporte un troisième hadith du bab, qui est le hadith de Qida ibn Hanbal, dans lequel il est rapporté qu'il dit qu'il rentra auprès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, mais dit, puis-je entrer? Mais il ne passa pas le salam. Il demanda la permission, mais il ne passa pas le salam. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'adressa à son domestique et lui dit, va et enseigne à cet homme comment on demande la permission d'entrer. C'est-à-dire le fait de lui dire, dis-lui qu'on dit, assalamu alaykum, puis-je entrer? Et ce sahabi, radiallahu anhu, après le conseil du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, s'exécuta et appliqua le hadith prophétique. De ce fait, les nobles comportements dans l'islam, avant de rentrer dans les maisons, c'est des adab qui nous sont venus de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala, par lequel il éduque ses créatures et nous enseigne la manière d'interagir avec les gens. Et ceci, c'est-à-dire dans le fait d'accomplir, de préserver et de mettre en application ces adabs, il y a en cela une préservation de la religion et de l'honneur des gens. Et ces choses-là doivent être enseignées à nos femmes, à nos enfants et ainsi de suite. Nous devons de propager ces adabs-là et de les enseigner aux gens de notre communauté.
إذا حمد الله تعالى وكراهة تشميته إذا لم يحمد الله.
باب بين السنة يا المستمع. فتنة هذا.
بابي.
هذا.
إيه.
ما قرأ.
إيش يقول؟
باب بين يعني أن السنة قيل للمستأذن من أنت أن تقول يا فلان فيسمي نفسه بما يعرف به من اسمه والكنية وكراهة قوله أنا.
لا هذا مش موجود يعني.
ليس موجود؟
لا. في رياض الصالحين
نعم حتى في هذه النسخة
نشوف لحظة
قبله بس لا. سبحان الله يعني في نسختكم ما توجد طيب
لا بس اقرا الحديث
نعم عن أنس رضي الله عنه في حديثه المشهور في الإسراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صعد بي جبريل إلى السماء الدنيا فاستفتح فقيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد ثم صعد إلى السماء الثانية فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد والثالثة والرابعة وسائرهن ويقال في باب كل سماء من هذا فيقول جبريل متفق عليه ثم عندنا يعني ثلاثة الأحاديث نأتي بكم عن أبي ذر رضي الله عنه قال خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده فجعلت أمشي في ظل القمر فالتفت فرآني فقال من هذا فقلت أبو ذر متفق عليه وعن أم هاني رضي الله عنها عنهما قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل وفاطمة تستره فقال من هذه فقلت أنا أم هاني متفق عليه وعن جابر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب فقال من هذا فقلت أنا فقال أنا كأنه كراهها متفق عليه ثم يأتي باب التشميت
آه طيب
ممكن تستعمل
خلاص هذه الأحاديث جاء فيها ذكر من كان يمشي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمشي وكان خلفه أحد فتعرف عليه هذا ما في استئذان هذه هذا في موضع لا استئذان فيه في خلاء الحديث الأول حديث جبريل عندما رغب الرسول عليه الصلاة والسلام في المعراج فكلما جاء إلى سماء استأذن لأن هنا الباب مغلق فيقال له من معك يقول معي النبي الفلاني محمد عليه الصلاة والسلام فيؤذن له هذا فيه أيضا دلالة استئذان الحديث الأخير الذي هو حديث أم هاني هذا قد مر معنا هذا ما في استئذان داخل البيت دخلت استأذن ودخلت وسلمت على الرسول قال من هذه تعرف عليها ما في استئذان هذا والحديث الأخير الذي فيه الشاهد وهو أيضا يعني شاهد في موضعه أن فلان استأذن السلام عليكم أدخل قال من أنت أو قال من قال أنا من أنت أنا مجهول أنت ولا يستأذن يقول لك من لازم تبين تقول أنا فلان ابن فلان فلما قال أنا الرسول ردد عليه أنا كأنه إيش يعني يبين له هذا ليش صحيح الطريق هذا لا تقول أنا يقول لك إذا قال لك من قل أنا فلان أنا من أنت حتى أنا يفهمك لعل بعض الناس لما يقول أنا كأنه يقول يا من تعرف صوتي وتعرفني أنا وذاك. وغير الإنسان ما يعرف صوته، أو يكون استيقظ من النوم ما هو متدقق، فإذا قالك من أنت تقول أنا فلان، إيش تقول أنا؟ فردد الرسول صلى الله عليه وسلم ذما له، قال قل أنا فلان، لا تقول أنا. إذن هذا أيضا يغفل باب استئذان، أن إذا قلك من أنت قل أنا فلان، مثل ما قال في السماء لما استأذن جبريل من؟ قال جبريل، ما قال أنا. من معك؟ قال معي فلان. فهذا أيضا يدخل باب الاستئذان، وهذا من أثر حديث النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
الشيخ حفظه الله تعالى إلى بوردون دان باب رياض الصالحين sur la nécessité de décliner son identité avant de rentrer chez quelqu'un comme il est d'usage dans la sunna et d'éviter des formules semblables au fait de dire c'est moi. Une fois qu'on a demandé permission, le fait qu'on demande qui est-ce, on dit c'est moi. Le fait de se contenter de dire c'est moi au lieu de décliner son identité. Le premier hadith que le cheikh a expliqué, c'est le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam marchait dehors sallallahu alayhi wa sallam et qu'un homme le marchait près de lui et qu'il demanda qui est-ce. Il demanda de décliner son identité et Abu Dhar radiallahu ta'ala anhu déclina alors son identité. Cheikh, il dit ça, c'est pas lié à la demande de permission qu'on a abordée précédemment, parce qu'il dit ça, c'est pas par rapport à une maison, une chambre, etc. C'est quelque chose qui s'est passé au grand air, dehors. Donc ça, c'est différent. Et après, par rapport au hadith de l'Isra wa al-Mi'raj, c'est-à-dire le voyage nocturne et de l'ascension, le fait que Jibril alayhi salatu wa salam, lorsqu'il se présenta à chaque cieux, parmi les sept cieux, il demanda la permission que la porte du ciel lui soit ouverte et qu'il lui soit accordé passage. Et à chaque fois, on lui fut demandé, c'est-à-dire à Jibril alayhi salam, qui es-tu? Il disait, c'est Jibril. Puis on lui disait, qui est avec toi? Et il disait, c'était Mohammed sallallahu alayhi wa salam. Et donc ça c'est un dalil qu'on peut utiliser sur le fait qu'on doit demander la permission d'entrer, car même Jibril alayhi salam, avant de passer d'un ciel à un autre, avant de pouvoir passer, il demandait la permission d'entrer. Et il fut demander son identité et il la déclina. Le hadith ensuite qu'il explique à le cheikh, c'est le hadith de Hani, radiallahu anha. Il dit, ça ne rentre pas dans le fait de demander la permission, c'est juste dans le fait d'informer sur qui tu es, de décliner ton identité. Pourquoi? Parce qu'elle était déjà rentrée. C'est une fois rentrée que le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda qui est-ce. Et elle dit alors c'est moi, Hani. Donc elle déclina son identité. Donc il dit le cheikh, c'est plus dans l'ordre, ce n'est pas dans l'ordre de la demande de permission, mais c'est plus dans ce qu'on appelle le fait de décliner son identité, d'informer la personne, l'habitant de la maison, concernant qui nous sommes. De plus, le cheikh hafidhahullah, il dit, mais par contre le hadith qui sert de shahid, qui sert de témoin argumentatif dans le sujet de la demande de permission et de déclination d'identité avant de rentrer, c'est le hadith où le sahabi radhiallahu anhu, Jabir radhiallahu anhu, il demanda la permission d'entrer au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda qui est-ce, il dit c'est moi, et en disant en arabe ana, c'est-à-dire c'est moi. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'information sur l'identité de la personne, on sait juste que c'est quelqu'un qui veut rentrer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a corrigé en lui disant Ana, c'est-à-dire il répéta la formule qu'il utilisa comme blâme, dans la manière de lui faire comprendre, ça ne nous donne pas d'information ce que tu viens de dire. Parce que certaines personnes utilisent cette formulation en disant c'est moi, comme une manière de dire tu sais très bien qui je suis, tu reconnais ma voix, tu sais très bien autour de ma voix qui je suis, donc tu vas me reconnaître. Il dit c'est pas un adab. Le adab c'est que quand tu viens, tu te présentes, tu dis je suis un tel fils d'un tel. Et si par exemple tu demandes permission, on te dit qui es-tu, tu dis pas c'est moi, tu dis je suis un tel. Tu te réponds et tu déclines ton identité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc corrigé ce sahabi, radiallahu ta'ala anhu.
الآن نبدأ في باب تشميت استحباب تشميت العطس. قبل أن ندخل هذا الباب، إذا كان في أسئلة في ما يتعلق بالباب، باب الاستئذان، باب الذي مضى معه، باب الاستئذان، سؤال أسئلة خاصة في الباب هذا قبل ما ننتقل الباب الثاني، ليس أسئلة عامة. تفضل.
Le cheikh hafidhahullah ta'ala, il explique que donc si des personnes parmi les gens dans l'assistance ont des questions liées spécifiquement au chapitre qui vient d'être abordé, c'est-à-dire le chapitre qu'on a étudié ensemble par la grâce d'Allah Azzawajal, le chapitre lié à la demande de permission d'entrer dans les demeures, si des gens ont des questions spécifiques liées à ce sujet-là, alors qu'ils procèdent alors à poser des questions.
وصلنا ووجدنا مثلا الباب يعني مفتوح او مغلق يعني وطلبنا الاستئذان ولم يستأذن يعني ولم يؤذن لنا بالدخول فماذا نفعل؟
ترجع
حتى ولو كان
طلب مستعجل. نعم. واذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا، الله تعالى يقول خير لكم، ليش انت مستعجل؟ لا ترجع، ارجع. ما في شيء ضرورة تأديك لأن تدخل. الآية صريحة. نعم.
Le frère Hafizahullah, il demande la question par, il pose la question par rapport au fait que si nous sommes dans une affaire pressée, une affaire urgente qui nécessite qu'on rentre dans la demeure, mais que la personne, on ne nous ait pas donné permission, qu'est-ce que je dois faire? Comment procéder? Si la porte elle est ouverte ou même elle est fermée, mais j'ai une affaire urgente qui m'intime de rentrer dans la demeure, mais que ne m'ait pas donné permission, comment dois-je me comporter? Le cheikh il dit, il revient au hadith, alors, au verset plutôt du Coran al-Karim, où il nous est dit que si nous ne nous ait pas donné permission, alors dans ce cas-là, retournez d'où vous venez. Non, monsieur.
Voilà.
Est-ce qu'il y a... Non.
Il y a parfois des cours privatifs devant les maisons, c'est-à-dire des petites cours devant la porte d'entrée. Est-ce que l'ISDM concerne aussi ces cours?
Mungkin ahad al-ikhwa yusa'idni, yani. Comment on dit déjà la cour? Hein? ماذا؟
ساحة قبل الدخول.
نعم. يعني مثلا الأخ يبين يعني أحيانا بعض المنازل يعني قبلها قبل الدخول يعني في الباب يعني نفسها من الباب من البيت توجد مكان لصاحب البيت ولا نستأذن قبل الدخول هذا المكان وهذا المكان ليس البيت نفسه.
إذا كان يعني الاستئذان من خارج فيه له وسيلة كان يكون له جرس مثلا يستأذن من خارج. إذا كان لم يكن الجرس يأذي بالصوت. إذا كان الصوت ما يبلغ والساحة هذه ليس فيها عورة ليست من داخل البيت يعني ساحة تعتبر من خارج البيت لا بس يعني يدخل اللي يقرب المكان الذي يسمع صوته لكن يكون مغلق الباب الذي أو أنه بعيد يبعد عنه. هذا التفصيل هذا.
Donc le cheikh Hafizahullah il explique que par rapport à la question du frère qu'elle a récompensé bien pour l'avoir posée. Yani le frère il a posé la question qu'en est-il quand les gens possèdent une cour qui fait partie de la résidence de la personne? Est-ce qu'on doit demander la permission avant même de rentrer dans la cour? Le cheikh il dit si il s'y trouve un objet, une voici là, c'est-à-dire un des moyens par lesquels on demande la permission, qui est connu que c'est un moyen de demander la permission, dans ce cas-là on respecte le comportement de la demande de rentrer. Par exemple, ici au niveau de l'entrée de la cour, il se trouve une sonnette. Donc ça veut dire que c'est un endroit privé dans lequel on doit demander la permission par ce biais-là. Alors dans ce cas-là, on procède par le fait de sonner ou alors par le fait d'utiliser la voix. C'est-à-dire qu'on interpelle la personne qui est dans la maison. Et si on est sûr que la voix ne porte pas assez pour que la personne qui est dans la maison nous entende et que dans cette cour, il ne s'y trouve pas de choses, le fait de rentrer dans cette cour, on ne va pas être amené à voir des choses inappropriées, c'est pas dans la maison en elle-même, il n'y a pas des gens qui vivent et qui peuvent dévoiler leur nudité. Dans ce cas-là, on peut être amené à rentrer dans cette cour-là par nécessité et ensuite demander la permission pour rentrer au niveau de la porte de la maison en elle-même. Mais sinon, yani c'est autrement yani et s'il n'est pas donné permission, dans ce cas-là après il revient comme il nous a déjà enseigné précédemment.
في الغالب في الـ يعني العصور اللي نحن نعيش فيها ان الناس جعلوا اجراس هذه اللي هي على الباب المنبه هذه فهذه وسيله لكن لا تجعلك تترك الاستئذان الشرعي. انت تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدخل وتدق الجرس مع ذلك لأن قد يكون الموضع بعيد ما يسمعون هم معتمدين على الجرس هذه على الأصوات هذه فتسلم وتستأذن ثم تدق الجرس مرة أولى والثانية والثالثة ما أدري ترجع.
Donc le cheikh Hafizahullah il explique qu'il rajoute par rapport à une précision par rapport à l'usage de la sonnette. Dit le fait que c'est la majorité du temps dans les maisons modernes qu'on trouve de nos jours, en général, à l'entrée des maisons se trouve une sonnette dans laquelle on peut par son biais interpeller la personne qui réside dans la demeure afin de lui faire savoir qu'on veut rentrer. Il dit mais c'est pas parce qu'il y a ce genre de procédé moderne pour interpeller la personne et lui faire savoir que tu veux rentrer que ça veut dire que tu dois délaisser le adab shar'i. Tu utilises le adab shar'i en te disant assalamu alaikum wa rahmatullah, est-ce que je peux rentrer? Et si la voix ne porte pas, si ça suffit pas, tu dis la parole et tu sonnes. Et ainsi tu recommences une deuxième fois, une troisième fois comme il nous a déjà été expliqué.
أصوات الأجراس هذه اللي هي متشبهة بالجرس المحرم شرعا لا يجوز أن تركب على أبواب بيوت المسلمين وإنما نركب أشياء أخرى يعني مباحة يعني صوت عصفور مثلا لا بأس صوت بغبغان يقول السلام عليكم لا بأس ما في شيء أو يعني أي كلام آخر يكون من باب التنبيه لكن الأصوات المحرمة شرعا كالأجراس هذه محرمة لا نستعملها. نعم.
إذا شيخنا إذا يأتي ويسلم ويستعمل بالجرس إذا
ما بعض. لأنك قد لا يسمعون الصوت
نعم.
يسمعون المنبه هذه اليوم
بضرورة يعني يستعمل بالجرس، ولكن أصلا الجرس ليس
مناسب. أصوات الجرس صاحب البيت مفروض ما يضع
أصلا، لا يجوز
إلا أن محرم الصوت ذاته محرم. جرس هذا جرس الكنائس وغير هذا حرام، محرم الإسلام.
نعم.
ولا نستعمل الجرس اللي هي محرم صوتها عند أهل الإسلام.
نعم.
نستعمل أشياء في أصوات عامة، صوت طير، صوت كذا، صوت كلام.
وإذا أتيت أمام البيت مثلا ولا يسمع صوتي يقول السلام عليكم هل أدخل وأنا متأكد أنهم لا يسمعوني وتوجد جرس أو صوت محرم أستطيع أن أستعمله؟
مع بعض، مع وقت أنك السلام عليكم أدخل دق الجرس في نفس الوقت،
لأن لأن ما عندنا يعني سبب إلى هذه.
نعم، هذا وسيلة.
نعم. Donc le cheikh Hafidhahu Allah Ta'ala, il explique que par rapport en fait, l'utilisation de la sonnette, à la base il dit la sonnette c'est quelque chose qui ne doit pas être présent. Que la base de la sonnette c'est quelque chose qui ne doit pas être présent dans la maison des musulmans. C'est-à-dire la sonnette qui sonne avec un son semblable à la cloche. Pourquoi? Parce que c'est connu que la cloche c'est quelque chose qui n'est pas légiféré dans notre communauté, qui est connu chez les communautés avec lesquelles nous devons diverger. De ce fait-là, il dit à la base ce genre d'instrument-là ne doit pas être présent dans la maison d'un musulman. Mais j'ai demandé au shir, mais si je viens et qu'il y a ce genre de sonnette-là, est-ce que je passe au salam et je sais que ma voix ne suffit pas, je demande la permission, est-ce que je peux utiliser la sonnette? Il dit dans ce cas-là oui, parce que t'as pas le... en fait on n'a pas le choix. Mais à la base ce genre de choses ne doit pas être présent dans la maison d'un musulman, mais il doit les remplacer par quoi? Un instrument qui produit un son qui est autre, par exemple le son des oiseaux, etc., quelque chose d'autre. Et il dit parce qu'à la base, normalement, des instruments qui produisent des sons similaires à la cloche utilisée par les non-musulmans ne doivent pas se trouver dans la maison des musulmans à la base.
Tu sois à la fin ou
il est où ça? Je t'ai vu le même. Tu veux toujours poser ta question?
C'était juste pour si on rentre chez nous, est-ce qu'on doit prévenir parce qu'on sait qu'il y a juste notre épouse ou les enfants, est-ce qu'on doit quand même frapper?
Les clés?
Oui, mais tu veux dire qu'on est là.
رجل يعني يعيش مع زوجته والأبناء إلى آخره، عنده المفاتيح، هل يستأذن؟
لا صاحبي ملكت المفاتيح،
هذا
يملك مفتاح، هذا اللي يملك مفتاح. يعني مثلا عندك جاء ضيف نزل البيت وقال يا فلان هذا مفتاح، اي وقت تدخل تفضل، خلاص انت لا مالك مفتاح وما ملكت مفاتيح، اذن لكم ما يلزم استئذان. عرفت بيتك انت ما يلزم استئذان، هذا البيت الذي لا يؤذن لك الا بالدخول بالاذن. هذا هو
Si dans le but,
okay,
si l'épouse elle fait le ménage, elle
n'est
pas dans une tenue, pour
c'est quoi le problème que tu
ne
vas pas ta femme avec une tenue?
Non, que si elle veut s'embellir, elle te voit dans une tenue qu'elle
n'aimerait
pas.
Ah.
Qu'elle faisait
le
ménage et tout.
D'ailleurs, il y a quoi le l'istiadam bi ma'a, yani le qasd, yani mumkin azouja tunadif il akhiri, hiya fi hiya ghayr munasiba li zoujiha, wa li ajli an tasta'id lahu bi zina il akhiri. Hal yasta'dhin bi
hadha? La yadkhul law ya ariyan yadkhul. زوجي هذا قد يفضي له ويفضي له، هلا ما هذا كلام غير صحيح. هات اللي بعد، لا تشغلونا بأسئلة اللي هي نادر.
شيخنا أمي تزوجت منذ بضع سنين،
أي
والدي تزوج منذ بضع سنين، فهل يعني أفعل مثل كنت صغير أدخل إلى البيت هكذا أو أقبل يعني الآن عندما تزوجت يعني هل أستأذن أم لا؟ يعني
أنا
أصبح
لها زوج وأبي له زوجة،
يعني
هل يعني كنت صغير؟ نحن عندنا نوعين من الإذن، قلنا إذن من خارج البيت، من خارج البيت استأذن حتى مكان مستأذن لأنه باب مغلق عليه. في داخل البيت في أوقات ثلاثة هذه لا يجوز الدخول عليهم إلا بالإذن، غير هذا ثلاثة أوقات إن كان من يؤذن له يدخل، لأن هذه أمك أم يعني زوجة أبيك هذه محرم لك. نعم.
صغير كنت أدخل يعني أسكن معهم يعني.
أيوة.
الآن تزوجت وذهبت وسكنت وحدي.
أيوة.
الآن هل أبدأ أتصرف معهم نفس التصرف يعني أدخل هكذا يعني يفتح
ذلك؟ لا، إذا كان محل في خلوة وفي شيء يعني لا يسر أن يرى استأذن، لازم استأذن.
أيوة. طيب. donc par rapport à la première question du frère Hafidhahullah. Il a posé la question, en fait, est-ce que je dois demander la permission pour rentrer dans ma propre maison, dans laquelle se trouvent ma femme et mes enfants, et dont je possède les clés. Le cher, il dit, Yanni, c'est ta maison, donc tu n'as pas demandé la demande de permission. La demande de permission pour celui qui ne vit pas dans la résidence présente. Et quant à la question du frère, corrige-moi si j'ai mal compris. Le frère, en fait, il vivait avec ses parents, il a quitté la maison de ses parents, il vit seul, à présent il s'est marié, et ses parents ont divorcé, et se sont chacun remariés avec un conjoint. Est-ce qu'il peut rentrer chez eux sans la permission? Le shir a dit, tu rentres avec permission, et quand tu es dans la maison, si tu veux rentrer dans leur chambre privée, alors dans ce cas-là, tu dois respecter les trois temps que doivent respecter même les gens à qui est donné la permission d'entrer dans la maison, c'est-à-dire au niveau d'avant le fajr, au niveau de l'heure de dhuhr, et au niveau de l'heure d'après Isha, afin de ne pas voir quelque chose qui serait inapproprié de voir.
قال باب استحباب تشميت العطس إذا حمد الله تعالى وكراهة تشميته إذا لم يحمد الله تعالى وبيان آداب التشميت والعطاس والتثاوب. هذه آداب في باب الأدب من كتاب رياض الصالحين. قال باب استحباب تشميت العطس إذا حمد الله تعالى، يعني معنى إذا عطس مسلم وقال الحمد لله، يقول يستحب أنك تشمته، أي تقول يرحمك الله. فهذا قول المصنف اللي هو الحافظ، أنه يقول يستحب إذا يعني عطس وقال الحمد لله أن تشمته، يقول يرحمك الله. ويقول إذا لم يقل الحمد لله لا يلزمك أنك تشمته، لأنه لم يبدأ بالأدب النبوي ان الانسان اذا عطس يقول الحمد لله. طيب قبل ان ندخل الحكم، نقول اول العطاس اللي هو يعني حصول الصوت هذا اللي يخرج من الانف مع الحركه هذه، هذا يحبه الله تعالى. جاء في الاحاديث ان الله يحب العطاس. ليش يحبه؟ لان العطاس فيه تنبيه، ينبه جسم، نقول حركه تنبيه تنبه جسم، هذا تنبيه في حيويه المسلم، ينشط ويبدأ ممكن يتحرك، ممكن يقوم. فالعطاس لأن فيه تنبيه، فيه حركة، المسلم فيها فائدة، يحبه الله تعالى. بعكس التثاؤب، التثاؤب لما هذا فيه كسل خمول، هذا يبغضه الله تعالى، يبغض هذا الأمر، ما يبغض الفاعل، يبغض الفعل ذاته، ولا يبغض الفاعل، لأن هذا جبلي يفعله الإنسان. طيب عرفنا الآن أن العطاس يحبه الله تعالى. طيب طالما أنه يحبه الله تعالى، فإذا عطست بأي صفة، صوت عالي، بصوت منخفض، قل الحمد لله، تحمد الله تعالى أن جعلك تتنبه ويحصل معك شيء من هذا. بعض الناس يقولوا أنه العطاس هذا الإنسان إذا عطس يموت، فإذا لم يموت قال الحمد لله أني لم أموت، ما في دليل على هذا، ما عندنا دليل. طيب هنا النووي، حافظ النووي يقول استحب، لكن الصحيح أنه يجب من كلام أهل العلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا عطس أحدكم فحمد الله فحق على من سمعه، فحق واجب، يعني حق يعني واجب على من سمعه أن يشمته. إيش ما يشمته؟ يقول يرحمك الله تعالى. إذن قولنا حق يعني واجب على من سمعه أن يشمته. فإذا عطس المسلم وحمد الله وجب عليك أن تشمته، إذا لم تفعل تأثم، هذا معنى الوجوب، خلاف الاستحباب لا يجب ولا تأثم إذا لم تفعل. طيب معنى الحديث أنه ما قال سيأتي الحديث، قال إذا أنه لم يحمد لا يلزم أن تشمته، لا يلزم أن تشمته. طيب إذا زاد ما لم يأذن بالشرع، ذكرنا عن البارحة هذه، إذا قال الحمد لله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أخبره قل له لا تزيد، هذه زيادة بدعة، وإذا صر أنت مبتدع. وابن عمر عندما كان عنده عبده فكرها الثالثة قال إن عدتها لأشبعنك ضربا. هذا ما يتعلق بالعطس. في الأحاديث اللي معنا قبل أن ننتقل إلى التثاؤب، قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب العطاس، هذا دليل إن الله يحب العطاس، وذكرنا السبب. ويكره التثاؤب، التثاؤب تعرفوا التثاؤب اللي هو هذا اللي هو الفقر الفم ثم خروج الهواء. طيب هذا التثاؤب، إذن يكره الله تعالى، يبغض هذا. فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى هنا حمد الله يعني بمعنى لابد أن يحمد الله تعالى. فإن كان فحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم. شوف كل مسلم يسمعه بس كل مسلم يسمعه أن يقول له يرحمك الله. يقول لمن؟ للعاطس. إذا حمد الله
لو عطس الشخص في الصلاة
أيوة.
ها؟ لو عطس الإنسان في الصلاة ماذا عليه؟
في السيارة
في الصلاة في الصلاة
في الصلاة أي سيأتي معنا. إذا عطس الإنسان في غير الصلاة يقول الحمد لله. إذا عطس في الصلاة أيضا يقول الحمد لله لكن لا يرفع صوته، يقولها بشفايفه فقط. فيها أجر عظيم ذكرناه لعلنا البارح. إذا عطس في الصلاة وقال الحمد لله سبحان الله، أو عطس أحد الصحابة رضي الله عنه في الصلاة وقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه في الصلاة ورفع صوته، سمعه النبي وصليه. لما انصرف قال من القائل؟ من الذي عطس وقال كذا؟ سكت. من؟ فأخبره أنه له بشارة فقال أنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت 70 ملك، رأيت 70 ملك يبتذرون هذا الدعاء اللي دعا في الصلاة، يرفعونها إلى يعني في صحائف هذا. فهذا فيه خير عظيم يعني، لكن لا ينبغي الجهر به، لا ينبغي الجهر به، إنما يقولها بحركة الشفايف لأن لا يؤذي المصلين الذين هكذا. يوم الجمعة أيضا لا يجهر به إنما يقول على حركة الشفايف. طيب قال كان حقا على كل مسلم سمع أن يقول له يرحمك الله. طيب إذا قال يرحمك الله ماذا يقول العاطس؟ يهديكم يصلح بالكم، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، يهديكم يصلح بالكم. ما يقول يهدينا ويهديكم، لا ما لك دخل أنت، يهديكم أنتم اللي فعلتم هذا يا من تنبهتم هكذا. لا تزيد من عندك شيء، يهدينا هذا من عندك، هذا من جيبك، ما نبغى شيء من الجيب، هذا آثار لابد أن تأتي بها كما جاءت، لا تزيد من عندك شيء. يهديكم ويصلح بالكم يعني يصلح حالكم. طيب قال لأن هنا عطاس وتنبه، التنبه هذا يكون في خير، فأنت تدعو له أن يكون لخير ما يكون لأي شيء شر. قال وأما التثاؤب، التثاؤب اللي هو فقر الفاعل هذا، فإنما هو من الشيطان. الشيطان يأتي ينفخ في الإنسان ينومه، فإذا تثاب قال يعني حرج من الهواء هذا جاء الكسل ربما بعد ذلك ينام. قال فإذا تثاب وإنما التثاب فإنه من الشيطان، فإذا تثاب أحدكم فليرده ما استطاع، يرده ما استطاع. كيف يرده؟ يعني لا يفقر فاه، يعني حاول يرد التثاب هذا يكظمه. كيف قالوا؟ قال يضغط على شفته السفلى، يضغط عليها يجد قلق، ما استطاع يضع يده على فيه. ها ووضع اليد على فيه يحمي من دخول الشيطان، لا أخبر الرسول قال فلا يفقر فاه فإن الشيطان يدخل، وإذا دخل الشيطان يلعب يوسوس عليك. إذن تقضم ما استطاع تضع يدك. طيب المرحلة الثالثة ولا تقول ها فإن الشيطان يضحك لنا. بعض الناس يذهب هذه مرفوض، هذا الشيطان يفرح يعني معناك سلام بينهم يلا قم نم بس. فثلاث مراحل، إذا جاك التثاب هذا لابد الإنسان بشر يأتي هذا، إذا جاك حاول قدر الإمكان أن تضغط عليه بالشفاء ما استطاع بيدك، ثم إذا لم استطع فاكضم أو قم أو غير تحرك هذا. طيب هل ورد ذكر في هذا؟ ماشي ذكر. إذن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم في التثاب عملي ليس قولي، فعل بس. لا تجي تبتدع عندك، إيش يبتدعوا الناس؟ بعض الناس يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا عبد النفس ما في لها دليل، ما في دليل لها. قول هاي من الشيطان، قول أيوه هاي من الشيطان، لكن لا تأتي بها تربطها بهذا الفعل، تمام؟ إذا الآن نحن معنا مرحلة التثاب، إذا تثاب الإنسان هذا من الشيطان والله يبغض هذا، فحاول قدر الإمكان أنك تكظم ولا تظهر بهذه الوسائل التي ذكرناها، ولا تقول ذكرا لم يرد ذكر عن النبي ولا في شرع الله، فلا تأتي بذكر من عندك يعني تخترعه. قال فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. جاء في رواية أخرى يدخل الشيطان من فيه. كل هذه ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب تفضل يا
Le Cheikh Hafidhahullah Ta'ala, il entre présent dans un nouveau chapitre de Riyad al-Salihin par rapport à un nouveau type de adab. Il n'est plus lié au adab par rapport à la demande d'entrer dans les demeures, mais un adab lié à comment se comporter lorsque la personne éternue et comment on se comporte vis-à-vis de la personne qui éternue. Donc le Cheikh Hafidhahullah Ta'ala, il dit que le chapitre il commence par Bab Istihbab, c'est-à-dire que le chapitre aborde la recommandation du fait de faire dua pour celui qui a éternué, qui a loué Allah. Et Cheikh il va développer un peu plus le jugement, parce que Cheikh dit que la position authentique, c'est pas que c'est recommandé, c'est que c'est obligatoire. De fait que dans un hadith il a rapporté que c'était un haqq, c'est-à-dire que donc c'est une obligation qui en découle. De ce fait, Cheikh explique que la parole authentique dans ce sujet-là, c'est que si quelqu'un éternue et qu'il loue Allah et dit Alhamdulillah après avoir éternué, dans ce cas-là, il est obligatoire sur tout à chacun qui l'entend, louer Allah Azzawajal après son éternuement, de dire « Ya Rahmouk Allah ». C'est une obligation, selon la position que Cheikh a pris, hafidhahullah ta'ala. Le hadith, selon Abu Huraira radhiyallahu anhu, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah aime l'éternuement et déteste le bâillement. Lorsque l'un d'entre vous éternue, puis qu'il loue Allah, il devient obligatoire à tout musulman l'ayant entendu de lui dire « Ya Rahmouk Allah, qu'Allah te fasse miséricorde ». Et le bâillement émane quant à lui du diable. C'est pourquoi lorsque l'un de vous bâille, qu'il se retienne autant qu'il peut, car il essaie de le repousser, il essaie de retenir son bâillement, car c'est un moment, c'est un geste qui provoque le rire du diable. Le diable se moque de nous. Donc le Cheikh Hafidhahullah Ta'ala, il explique que donc ce hadith, il y a en lui le fait que une preuve que Allah aime l'éternuement, subhanahu wa ta'ala, car ça provoque un éveil. Ça provoque une forme d'éveil et d'activité au niveau du corps de l'être humain. C'est-à-dire que quand la personne elle éternue, après, ça l'éveille en fait. Elle fait qu'elle, ça la maintient dans un état d'éveil. Et non pas, contrairement au bâillement qui est lié souvent à l'état de quoi ? D'endormissement, d'affaiblissement, etc. De baisse en matière d'activité. Et donc, Allah aime l'éternuement, mais n'aime pas le bâillement. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas le bailleur, la personne elle-même. Parce que ça, c'est quelque chose de naturel. Il peut pas. Le fait qu'un bâillement lui vienne, c'est pas quelque chose qui découle de lui-même, c'est pas de sa faute. Cependant, le cheikh va expliquer les adabs à avoir lorsqu'un bâillement vient à émaner de notre part. De ce fait, il explique que quand la personne éternue, il loue Allah. Il loue Allah Azzawajal qui lui a permis de s'éveiller par cet éternuement-là, subhanahu wa ta'ala. Mais ce n'est pas le fait de louer Allah du fait qu'on a encore en vie. Parce que certaines personnes, ils disent Alhamdulillah, ils pensent qu'on dit Alhamdulillah parce que tu as éternué, tu n'en es pas mort, donc de ce fait, tu loues Allah. Il dit ça, il n'y a pas de dalil sur ça. Et donc il dit, As-Sahih, c'est que si quelqu'un éternue et loue Allah, il est wajib pour les gens qui ont entendu cette personne éternuer et louer Allah Azzawajal par la suite, de dire à son égard, Ya Rahmouk Allah. Et si tu ne le fais pas, c'est-à-dire que si tu venais à entendre ton frère musulman éternuer à tes côtés, puis louer Allah Azzawajal, et tu ne dis pas Ya Rahmouk Allah, tu es donc tombé dans un péché. Naam. Et c'est ça la différence justement entre ce qu'on appelle ce qui est wajib, l'obligation, et al-mustahab, ce qui est recommandé de l'ordre de la recommandation. Le wajib, celui qui le délaisse, a commis un péché. Le mustahab, celui qui le délaisse, il n'a aucun péché sur lui. Donc, après le shir, il dit, quand tu loues Allah en disant Alhamdulillah, tu te contentes de ce qui a été légiféré par Allah Azzawajal dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne commences pas à ramener des choses de ta propre personne en disant Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ila akhir. Yani, oh Allah, prie sur Muhammad et ainsi que sur la famille de Muhammad, etc. Ça, ces choses-là, ça vient pas de la sharia. Contente-toi de dire Alhamdulillah. Et si jamais tu trouves une personne qui vient à rajouter des alfaz, à rajouter des phrases dans sa dua, dans sa manière de louer Allah Azzawajal suite à l'éternuement, et qu'il ne sait pas, tu le corriges, tu dis, ah, ça ne fait pas partie de la législation, tu lui fais la nasiha. Et tu lui fais savoir que si la personne elle venait à persister, elle serait tombée dans une innovation, et ça ferait de lui donc un innovateur. Qu'Allah Azzawajal nous en préserve. Et il rapporte la qissa de Omar, Abdallah ibn Omar ibn Khattab, lorsqu'il a entendu son domestique éternuer, et il a rajouté des propos dans sa dua. Et il a fait dua pour lui la première fois, Ya Rahmouk Allah. Il a éternué une deuxième fois, il a rajouté des propos à la dua légiférée, il a dit Ya Rahmouk Allah. Puis une troisième fois, il a fait Alhamdulillah avec un rajout, et Abdallah ibn Omar, il a dit Ya Rahmouk Allah. Il a éternué une quatrième fois, il a dit si tu recommences une quatrième fois, je te frappe. Il l'a menacé. Donc Allah Azza wa Jal aime l'éternuement mais n'aime pas le bâillement. Cheikh il explique, qu'est-ce que c'est tathaoub, le fait de bâiller. C'est le fait que là, ce qui est connu c'est quand la personne ouvre sa bouche et émane de sa bouche de l'air. C'est ce qui est connu comme le bâillement, le fait d'ouvrir sa bouche et que de l'air émane de notre bouche. Et après il y a un frère qui a posé une question par rapport au fait de... Le frère a posé une question par rapport au fait que, qu'est-ce qu'on fait quand on est allé dans la salat. Le cheikh il dit, en dehors de la salat, tu loues Allah Azzawajal normalement, et quand c'est en salat, tu loues Allah à voix basse. Naam, tu loues Allah Azzawajal à voix basse. Et ça a été rapporté des sahaba, radiallahu alayhim, du fait que dans un des hadiths authentiquement rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un des sahaba a été allé en salat. Mais il l'a dit à haute voix. Ce qui n'était pas correct, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a pas blâmé par la suite. Sallallahu alayhi wa sallam. Et en fait, il a éternué et il a dit Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. C'est-à-dire, la louange revient à Allah et après il exalta à Azza wa Jal, subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après l'accomplissement de la salat, sallallahu alayhi wa sallam, il demanda qui a fait ça, yani qui a émis cette dua-là durant la prière. Et ce sahabi, il s'est tu. Il ne s'est pas manifesté au début. Yani, parce que peut-être il avait commis quelque chose qui n'était pas correct. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait savoir qui était le fauteur en question. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam expliqua qu'il voulut savoir qui était la personne qui avait dit cette dua-là, car il avait vu sallallahu alayhi wa sallam 70 ans se précipiter pour inscrire cette dua. Du fait, et le cheikh il dit également en Jumu'ah, durant la khutbah de Jumu'ah, si la personne vient éternuer, il dit Alhamdulillah à voix basse, il ne dit pas à voix haute. Et donc, ensuite le cheikh il aborde, hafidhahullah wa ra'ahu, la partie sur qu'est-ce qu'on dit à la personne qui a éternué, qui a dit Alhamdulillah, on lui dit Yarahmukallah, et lui qu'est-ce qu'il doit dire? C'est-à-dire, il a éternué, il a dit Alhamdulillah, on lui a dit Yarahmukallah, et lui en réponse, qu'est-ce qu'il légiférait qu'il dise? Yahdikumullah wa yaslihu balakum. Yani qu'Allah vous accorde sa guidance et qui améliore votre situation. Et il dit, hafidhahullah, ne rajoute pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu avec des alfaz muqayyad, yani c'est restreint à la législation. Ne rajoute pas de toi-même et ne commence pas à dire qu'Allah me guide ainsi que vous, etc. Il dit ça, c'est pas des choses qui sont légiférées, il est contentant de ce qui est légiféré. Et concernant le bâillement, le fait que c'est quelque chose qui n'est pas aimé, c'est parce que c'est provoqué par le diable. Et le fait que le diable, il cherche à affaiblir l'être humain, à faire en sorte qu'il s'engourdisse et qu'il somnole et qu'il, jusqu'à ce qu'il tombe dans le sommeil. Et justement, cette perte d'activité qui est provoquée par le diable, c'est une chose qui se manifeste souvent et qui est liée au bâillement. Et dans ce fait, il est recommandé de repousser le bâillement, comme il est mentionné dans le hadith, le fait de retenir son bâillement. Comment se manifeste cela, le fait de repousser le bâillement, de le contenir? Le cheikh dit, tu pinces tes lèvres. Tu pinces tes lèvres de telle sorte à retenir ton bâillement. Naam. Et il dit, si tu n'es pas capable de pincer tes lèvres de telle sorte que tu retiens ton bâillement, et que tu, dans ce cas-là, tu ne peux pas le retenir, il dit, au moins tu mets ta main devant ta bouche. De ce fait, car il est rapporté que dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a deux riwayas par rapport au hadith lié au bâillement. C'est que le fait que la personne, quand elle baille ouvertement, de un, ceci provoque le shaitan le prend en raillerie et se moque de lui. Et de deux, si la personne ne met pas sa main et qu'elle garde la bouche ouverte, il se peut que le shaitan essaie de rentrer. Naam. Et de plus, le cheikh il dit, parmi les choses qu'il ne faut pas faire lorsqu'on émet un bâillement, c'est ne pas émettre de son. Il y a des gens, ils émettent un son fort, on les entend de loin. C'est-à-dire, il est dans ton dos, tu sais qu'il baille parce que tu entends le bruit qu'il fait. Et j'ai pas envie de vous le faire, mais vous voyez de quel bruit je parle. Le bruit qu'on entend quand quelqu'un il baille ouvertement et avec un son. Donc il dit, est-ce qu'il y a un zikr légiféré après le bâillement? Après l'éternuement, on l'a vu. Après le bâillement, il dit, il n'y a pas de zikr. Quand la personne elle baille, il n'y a pas de zikr légiféré après ça, il n'y a rien de rapporté. Et certains parmi les gens ont innové une bid'a, une innovation dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, du fait que quand ils baillent, des fois ils disent A'udhu billahi minash shaitani rajim. Ils disent ça, ce n'est pas légiféré, ça ne fait pas partie de la religion. Et donc, le cheikh, hafidhahullah, s'est arrêté sur ça vis-à-vis de ce qui a été mentionné précédemment, hafidhahumullah.
عرفنا من هذه الحديث أن العطاس أمره يحبه الله تعالى وأن الإنسان إذا عطس فإنه يحمد الله تعالى فإذا حمد الله تعالى يشمته كونه يعطس ويحمد الله هذه مستحبة أن يحمد الله تعالى رد عليه تشميته أن نقول يرحمك الله هذه واجبة قلنا على الراجح وإذا لم يقل الحمد لله لا نشمته بما عندك رجل قال عطس ثم قال الحمد لله قل يرحمك الله بجنبه واحد عطس ما قال الحمد لله لا تشمته لم يحمد الله تعالى وفي كل هذه آثار قال وعنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله. صيغة ليقل هذه تدل على الوجوب, تدل على الوجوب, لكن الجمهور يقول ليس على الوجوب, فالأحرم الثاني أخذ بالأحوط وهو الوجوب. فليقل الحمد لله وليقل أخوه, أخوه هنا بمعنى في الإسلام يرحمك الله. فإذا قاله يرحمك الله فليقل الذي يعطس يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه البخاري. قال وعن أبي موسى رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه, قيدها بي أن يقول الحمد لله شمتوه, فإذا لم يحمد الله فلا تشمتوه. رواه مسلم. طيب ليش ما نشمته؟ معناه في خير, نقول زجرا له حتى يتعلم أن يحمد الله تعالى. ربما يقول لك ليش ما شمتني؟ يقول لك أنت ما حمدت الله تعالى. والتشميد دعاء, لا بس الإنسان يحتاج إلى الدعاء, لكن لا بد أن يحمد الله أولا. هو ثبت عن النبي عن أنس رضي الله عنه قال عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما رسول الله ولم يشمت الآخر, فقال الذي لم يشمته عطس فلان يا رسول الله فشمته وعطست فلم تشمتني, فقال هذا حمد الله وأنك لم تحمد الله. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم تعليم للأمة. طيب فضل
وكل شيء حفظه الله ورعاه. Il poursuit dans le sujet lié au adab par rapport à l'éternuement. Et il mentionne un hadith qui est rapporté par Abu Huraira radiallahu anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que lorsque l'un d'entre vous éternue, qu'il dise Alhamdulillah, qu'il loue Allah Azza wa Jal. Et si son frère ou son compagnon l'entend, alors à lui de lui dire qu'Allah te fasse miséricorde. Ensuite, celui qui a éternué à son tour de dire qu'Allah te guide et améliore ta situation. Yahdikumullahu wa yasluhu balakum. Et là, ce hadith est rapporté par le Bukhari. Le cheikh il dit, on pourrait comprendre du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car la formulation qu'il a utilisée, c'est si l'un d'entre vous éternue, qu'il loue Allah. Le love, c'est-à-dire la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est exprimé, on pourrait en déduire que c'est une obligation. Mais le cheikh il dit, as-sahih, c'est que c'est mustahab. C'est-à-dire, la personne éternue, louer Allah après l'éternuement est recommandé, selon la position prise par le cheikh. Mais par contre, celui qui entend quelqu'un qui éternue, qu'il loue Allah, lui dire, ya rahmakallah, lui est obligatoire. Le cheikh fait la distinction. Mais il dit quant au fait qu'il y a une divergence sur est-ce que louer Allah après l'éternuement c'est une obligation ou pas, ou si c'est de caractère recommandé, il dit sur cela il y a divergence, mais par al-ahwat, c'est-à-dire la position de sécurité, agit en application du hadith afin de sortir de la divergence. De ce fait, il dit maintenant comment on se comporte avec la personne qui n'a pas loué Allah suite à son éternuement, sachant qu'il y a divergence sur le caractère obligatoire ou si c'est recommandé. Le cheikh il ramène le hadith qui est rapporté par Abu Moussa radiallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsque l'un d'entre vous éternue, qu'il loue Allah et ensuite alors qu'il demande la miséricorde pour lui, et s'il ne loue pas Allah alors ne lui faites pas la doua, c'est-à-dire on n'a pas à lui faire à tashmit, le fait de lui dire ya rahmuk Allah. Donc de ce fait le cheikh il dit si tu entends quelqu'un qui éternue et qui ne loue pas Allah Azzawajal, tu ne fais pas doa pour lui. Et c'est quoi le but dans le fait de ne pas faire doa pour lui? Parce que pourtant c'est un khair de dire Ya Rahmouk Allah. Mais c'est dans le fait de le blâmer, de le corriger, afin de le faire remarquer par rapport au adab islamique qui serait convenable pour lui, qui doit louer Allah Azzawajal. Donc de telle manière, il apprend les adab. Et ça a été fait par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith suivant, qui est rapporté par Anas radiallahu ta'ala anhu, qui dit que deux hommes s'est trouvé au niveau du prophète sallallahu alayhi wa sallam, auprès de lui sallallahu alayhi wa sallam, et les deux ont éternué. Un des deux loua Allah azza wa jalla, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit la dua ya rahmuk Allah à un des deux. L'autre qui avait éternué mais qui n'avait pas loué Allah azza wa jalla interrogea le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi tu as fait dua pour lui mais pas pour moi? Il dit quant à lui, il a loué Allah, donc c'est pour ça que j'ai fait cette dua en sa faveur, mais quant à toi tu n'as pas loué Allah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a corrigé sur le fait qu'il avait délaissé la louange d'Allah azza wa jalla suite à son éternuement, et de par cela le prophète sallallahu alayhi wa s'est donc abstenu de faire dua en sa faveur. Non, monsieur.
قال في الحديث السادس عن أبي موسى رضي الله عنه قال كان النبي قال كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرجون أن يقول لهم يرحمكم الله فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم. اليهود يعلمون أن هذا محمد عليه الصلاة والسلام رسول الله وأن دعوته مجابة، لكن ما يريدون يؤمنوا به، ليش؟ كبر. ورسول عليه الصلاة والسلام يقول ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا كبه الله في النار. خالد مخلد بعد يعني رسالة النبي محمد لا تقبل شريعة اليهود ولا شريعة النصارى. فهم يأتون يجلسون على الرسول في مجلس، فإذا عطس أحدهم قال الحمد لله رجاء ويرفع صوته، رجاء أن يقول للرسول عليه الصلاة والسلام يرحمك الله، يريد رحمة الله تعالى. الرسول ما يقول يرحمك الله، يقول يهديكم الله صلح بالكم، لأنهم كفار، يهديكم الله صلح بالكم، بل أنهم يتعمدون العطاس. يعني ما أنت تقول هاش كذا بالصوت يعني، أو أحيانا يجيب شيء يحطه فيه مشان يقول كثير الحمد لله الحمد لله. يجي مرة يقول رسول رحمك الله، رسول ينتبه له يقول ما يهديكم الله صلح بالكم بس. وهكذا إذا كان عطس عندك إنسان من أهل الضلال بمعنى من أهل الكفر وقال الحمد لله، قل يهديكم الله وصلح بالكم. هذه السنة التي علم الله الإسلام فيها، فما ترجو له الهداية لأنه حمد الله تعالى. فأورد هذا الحديث حافظ النووي قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل. هذا الحديث ذكرنا كلام فيه لكن لم يرد أورده الآن المصدر، يعني إن الشيطان يدخل إلى جوفه. طيب يدخل يسكن ولا يدخل يخرج، يكون له مدخل. أنت الآن مقلق وذكر الله ما يمنع الشيطان، ما يستطيع الشيطان. فإذا تثاءبت وفقرت فاك دخل، فيدخل يوسوس ويخرج ما يسكن. لكن هذا الذي يدخل ويؤذيك ويسكن هذا اللي يتلبس، وهذا في الغالب ما يأتي إلا إذا وقع في معصية. يعني إذا آذيت الجني ربما يدخل، أو أنك فعلت منكر في موضع فحصل لك يعني مدخل يدخل. وأيضا أحيانا يكون إذا حصل عندك خوف شديد ضعف يدخل عليك الشيطان، أو إذا تعريت رجل يدخل يعني الحمام ما يتعود بالشيطان ما يأتي بالذكر ويتعرى، تأتي جنية يعجبها شكله تدخل فيه، أو العكس مرأة هكذا ما تعود تتعرى في هذه الأماكن فيراها جنية يدخل فيها يصير فيها اللي يسمى المس. هذه من أحكام العطاس والتثاؤب. الآن عرفنا احنا ما يتعلق بأمرين للعطاس وإيش والتثاؤب، عرفنا الأحكام فيها. في مسألة أخرى ثالثة لم ترد في هذه الحديث وهي عند الناس ولهم أذكار عندهم لها لكن ما أنزل الله بها من سلطان، هذه يسمى التجشؤ. التجشؤ تعرف التجشؤ؟ لما تجشأ بعد ما يأكل أكل يشرب ماء يخرج منه إيش صوت يكرع، يسمى يتكرع. هذه إذا تجشأ الإنسان هذا يعطي صوت. ها هل هنا ذكر له في هذا الموضع؟ ما ورد شيء بالشرع، ما ورد شيء ذكر متعلق بالتجشؤ، كما أنه لم يرد ذكر في التثاؤب. التثاؤب ده علمنا الإسلام فعل نفعله بدون ذكر، في العطاس فعل وإيش أيضا وذكر. إذا إذا تجشأ الإنسان ما له ذكر ما يذكر الله تعالى. وكثير من الناس إذا تجشأ يقول الحمد لله، الحمد لله أولا وآخرا كل حال، ليش حمدت الله هنا؟ يقول تجشأت. طيب تجشؤ هذا فعل، أنت لم تحمد الله تعالى تربط الفعل ب يعني عبادة، الحمد لله عبادة، لابد أن يكون لها دليل. هل فعل هذا الرسول؟ هل فعل السلف الصالح؟ نحن على السنة نمشي بالدليل، ما نأتي باختراف من عندنا، لأنك أنت اليوم تأتي بهذه يراك الناس يفعلون ثم يجعلونها قربة، واللي ما يفعل ينكرون عليه، وربما حدثوا الناس بهذه الأحاديث. هذا لا يجوز، لا تحدث في دين لا شيء. بعض الناس يظن الإحداث هو مولد وكذا كذا، لا، حتى هذا إحداث، هذه بدعة أيضا. فتقول له ليش تنكر عليه؟ تقول لا تحمد الله تعالى. يقول ما يحمد، يقول نعم لا تحمد الله هنا، تنهاني أحمد الله، نقول أي نعم أنهاك. يقول لا أنا أقولها لسبب. إيش السبب؟ قال أنا أكلت أكل فلما أكلت نعمة من الله، ف ثم دجشت من الأكل هذا أحمد الله على هذا، يقول هذا موضوع ثاني. إذا أكلت الأكل وأتممته قل الحمد لله، فيها دعاء فيها أثار عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن الإنسان إذا أكل أنه يحمد الله تعالى، مربوط بالأكل. التجشي هذا ما هو أكل، هذا هذا خروج ريح. يقول نعم هذه الريح هي من أكل، هذه تعلات ما لها أي يعني مخرج حتى تجعلها سنة أو تجعلها تربطها بعبادة. أنت عبد متعبد بما أمرك الله وبين رسول الله، فلا تحدث في الدين شيء، ولا هذه المسألة البسيطة التي هي عظيمة عند الله تعالى أنها من البدع، أنها من البدع. نعم تفضل.
Le Cheikh Hafizahullah Ta'ala, il aborde le hadith suivant, toujours dans les adab, et ce qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le livre de Riyad al-Salihin de l'imam al-Nawawi, rahimahullah, rahmatan wasi'a. Il rapporte le hadith d'Abu Huraira, radiallahu anhu, qui rapporte que, lorsque des juifs éternuaient en présence du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ils disaient Alhamdulillah, mais à voix haute. Espérant quoi? La doua du prophète sallallahu alayhi, que le prophète sallallahu alayhi fasse doua pour eux. Naam. Et le fait qu'ils aient espéré ça, mais le prophète sallallahu alayhi ne donnait pas ce qu'il voulait, il leur disait Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Et qu'Allah vous guide et améliore votre situation. Il dit que les Yahoud, pourquoi ils n'ont pas cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est pas à cause de leur orgueil. Mais ils savaient que la doua du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle était. Que la doua du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle était exaucée. De ce fait, quand ils éternuaient à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils faisaient exprès d'affaire à voix haute, de telle sorte qu'ils les entendent, espérant qu'ils fassent, en disant Alhamdulillah, qu'ils leur disent Ya Rahmukallah, qu'ils fassent doua pour eux. Ils espéraient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande la miséricorde en leur faveur. Parce qu'ils savent que sa doua est exaucée sallallahu alayhi wa sallam. Bien qu'ils ne veulent pas le suivre sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur disait Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Qu'Allah vous guide et qu'Allah azza wa jalla améliore votre situation. Et après, il explique, hafidhahullah, qu'il y a un hadith qui explique que l'islam invite les yahouds et les chrétiens à rentrer dans l'islam et que ceci est une obligation du Seigneur de l'univers. Car il rapporte le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la menace qu'il n'y a pas un juif ou il n'y a pas un chrétien qui entend parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui parvient et qu'il ne la suit pas et qu'il ne croit pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam sans que Allah azza wa jalla le jettera dans l'au-delà, dans le feu. Nasallallahu alayhi wa sallam. De ce fait, il dit que même les Yahoud, des fois, ils pouvaient être amenés à quoi? Même pas éternuer, à simuler l'éternuement. Ou à provoquer l'éternuement auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et louer Allah dans le but, car ils espéraient de la part du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'ils fassent doua en leur faveur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur disait qu'Allah vous guide et améliore votre situation. Après, le Cheikh hafidhahullah ta'ala, il aborde le sujet du bâillement. Le fait que c'est le dernier hadith de ce chapitre-là, ou rapporté par Abu Sa'id al-Khudri, qui rapporte de la part du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dit que lorsque l'un d'entre vous se met à bâiller, qu'il mette sa main au niveau de sa bouche pour ne pas laisser le diable s'y engouffrer. C'est-à-dire que le diable n'y rentre pas. Naam. De ce fait, il aborde un aspect. Il dit si la personne est négligente et laisse sa bouche ouverte à cause d'un bâillement et que le diable y rentre, est-ce que le diable y rentre et y reste ou est-ce qu'il en rentre et il en ressort? Le shir, il dit, il y rentre, il assoit l'être humain, il fait des insufflations diaboliques, puis il en ressort, il n'y reste pas. Il dit, l'être humain, le diable n'a pas de moyen de rentrer dans l'être humain s'il garde sa bouche fermée et qu'il reste constamment dans le dhikr d'Allah Azza wa Jal. Cependant, si la personne baille et maintient sa bouche ouverte, yani largement ouverte, c'est-à-dire qu'il garde la bouche béante, dans ce cas-là, le diable peut être amené à avoir une voie par laquelle il rentre dans le corps de l'être humain, mais il n'y reste pas. Cependant, les cas où un djinn peut être amené à rentrer dans le corps d'un être humain et qu'il y reste, c'est par exemple dans le cas d'un péché. Si par exemple la personne a accompli un péché, et ça peut être un péché dans lequel il se fait du tort à lui-même, ou ça peut être un péché dans lequel il fait du tort à un djinn, et par vengeance le djinn rentre en lui-même en guise de représailles à son encontre. Ou dans le cas aussi où l'être humain est affligé, affecté par une peur intense. C'est-à-dire qu'il est dans une situation où il est dans un état de faiblesse, car il subit une peur intense. Et dans ce cas-là, le djinn peut profiter d'une opportunité pour rentrer alors dans son corps et rentrer à l'intérieur de lui. Il dit une autre situation qui est possible dans laquelle la personne peut être amenée à être attaqué par un djinn et que le djinn rentre en lui-même, c'est dans le cas où la personne se met nue, elle se déshabille, elle se dévêtit de ses vêtements, elle rentre dans la salle de bain par exemple, ou dans la douche, ou dans les toilettes, etc. Dans ce genre d'endroit, et où il est amené à se déshabiller, il se déshabille mais il ne fait pas la dua dans laquelle il demande la protection d'Allah tabaraka wa ta'ala contre les djinns. Et de ce fait là, il se peut que, si c'est un homme qui se déshabille, il se peut que le fait qu'une femelle djinn l'observe alors qu'il est nu, et que ce qu'elle voit de lui lui plaît, et qu'elle rentre alors dans son corps, et l'inverse aussi est probable, c'est-à-dire qu'il se peut qu'une femme se déshabille, ne mentionnant pas Allah Azzawajal en demandant sa protection contre les djinns, et qu'un mâle parmi les mâles djinns observe son corps, et observe d'elle ce qui lui plaît, et alors cherche à, donc à rentrer dans son corps. Et le shir, il dit, donc nous avons vu deux choses à travers ce chapitre de Riyad Salahin, Wallahalhamd, nous avons vu les adabs liés à l'éternuement et les adabs liés au bâillement. Il dit, nous allons aborder un troisième point qui est lié à une chose qui n'est pas mentionnée dans ce chapitre-là, que le shir rajoute, Hafidhahullah ta'ala, wa nasallallahu azzajal an yaziyahu anna khaira. C'est le ro. Le ro, le fait que quelqu'un rote. Le ro, c'est ce qui est connu. La personne, par exemple, souvent quand elle a mangé, etc., elle est amenée à avoir le fait d'érupter. C'est le fait d'avoir de l'air qui est une forme de... J'ai pas envie de l'imiter, mais vous voyez de quoi je parle. Hafidhakumullah jami'an. Yani, le fait de roter. Barakallahu fikum. Il dit, est-ce que le ro, est-ce qu'il y a un dhikr rapporté dans la sharia d'Allah, tabaraka wa ta'ala, qu'après avoir roté, on dit quelque chose? Il n'y a rien. Il n'y a aucun dalil authentique du Coran ou de la sunna qui stipule de dire quelque chose après avoir roté. Il n'y a rien de légiféré dans ce sens. Il dit, il y a des gens qui ont innové une bid'a. C'est-à-dire que lorsqu'ils rotent, ils disent Alhamdulillah. Mais le fait de dire Alhamdulillah, c'est la louange d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est quelque chose qui est donc, qui fait partie de l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et l'adoration d'Allah azzawajal doit être basée sur le dalil. Est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a fait? Est-ce que les sahaba radhiyallahu alayhim l'ont fait? Ou est-ce que salafuna salih, les vieux prédécesseurs de notre communauté, l'ont fait? Il n'y a aucun dalil de cela. Donc si toi tu es en train de faire une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait, que les sahaba n'ont pas fait, que les salaf salih radhiyallahu alayhim ajma'in n'ont pas fait, tu es en train donc d'innover dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, une adoration par laquelle tu cherches à te rapprocher. Donc si tu entends quelqu'un qui dit Alhamdulillah, il mange, il rote, il dit Alhamdulillah, tu dois le blâmer et le corriger, et lui faire la nasiha et le corriger sur cela, en lui faisant remarquer que ceci n'a aucun dalil venant du kitab wa sunna. De ce fait, certaines personnes utilisent de faux arguments. Ils essayent de jouer, à trouver des prétextes, etc. Rapprochez-vous, les frères. Faites de la place. Donc je disais, donc le chef il aborde le fait que certaines personnes ils cherchent à jouer. C'est-à-dire il rote, il dit Alhamdulillah. Tu dis pourquoi tu fais ça, il n'y a pas de dalil. Il dit non, en fait c'est pas pour l'euro que je loue Allah. Je loue Allah parce que j'ai bien mangé, donc j'ai roté parce que j'ai bien mangé, donc c'est pour ça que je dis Alhamdulillah. Il dit tu es en train de jouer là en gros. En vérité c'est ça, c'est pas des choses valides. Il dit le fait de louer Allah Azza wa Jal après avoir mangé, ceci est légiféré. Ceci a été rapporté de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la personne après avoir mangé, il loue Allah azza wa jalla. Ça fait partie de la sunna. Cependant, ce n'est pas lié au ro. Louer Allah azza wa jalla après avoir mangé est légiféré. Louer Allah après avoir roté n'est pas légiféré. Ceci ne fait pas partie de la législation d'Allah azza wa jalla. Et celui qui veut se rapprocher d'Allah azza wa jalla, il doit amener un dalil avant de le propager, de l'enseigner aux gens, de l'enseigner, de le pratiquer, de se rapprocher d'Allah azza wa jalla par ça. Il doit amener un dalil. Amen.
قبل أن ندخل في باب المصافحة، في أسئلة متعلقة بهذا الباب.
الشيخ حفظه الله يدمن. يدي avant qu'on rentre dans le chapitre des salutations et le fait de serrer la main etc. qui est un autre sujet. Est-ce que des gens ont des questions liées au sujet de ce qu'on a abordé maintenant, c'est-à-dire l'éternuement et le bâillement?
Par rapport à Rahimahullah, Yannick, j'avais vu il y avait plusieurs formules de réponse. Et Yannick, je voulais savoir si elles étaient légiférées ou non.
Donc par rapport à la louange d'Allah ou quand on te dit Ya
Rahmukallah? Quand yani la réponse à Rahmukallah. Yani
Alhamdulillah.
Ya Rahmukallah. Allahumma barik.
Yakum Allah salah balak.
Ta'lim bil fi'l.
تطبيق هذه.
نظري والفعلي ما شاء الله.
أراد الله أن نطبق.
اللهم صل. Donc précise bien ta question que je veux te demander.
Yani moi si j'éternue je vais dire
Alhamdulillah. Non.
Les frères vont me faire
Rahimahullah. Est-ce que yani,
toi tu réponds?
Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres formules?
Voilà.
Ah, yani, yes, يقول الحمد لله ثم قيل له يا رحمك الله يقول يصلح يهديكم الله ويصلح بالكم. هل توجد ألفاظ أخرى؟
لا. إذا كان جاء الشرع بذكر ألفاظ معينة فهذه ألفاظ تعبدية. لا نأتي بألفاظ أخرى من عندنا نقول هذه طيبة حسنة، لا هذا ما يصح. ولذلك نحن تكلمنا في الليلة وقبلها البارحة أن أحد يعني عبيد ابن عمر حضر مجلس وكان ابن عمر موجود عنده فقال عطس فقال الحمد لله اللهم صلي وسلم على محمد. أنكر عليه ابن عمر في الثالثة قال لئن عدت لأضربنك أو لأشبعنك ضربا. فإذا جاءت ألفاظ تعبدية في أمر ينبغي التقيد بالألفاظ التعبدية لا تأتي بأخرى مثلها تقول هذه طيب هذا أحسن استحسان هذا بدعة لا ينبغي لا يجوز. نعم تفضل.
Donc, le frère a posé la question, il dit, lorsque la personne est éternue, il dit Alhamdulillah, il se peut qu'on lui dise, c'est par rapport au sujet ou pas? Ah, c'est par rapport au sujet. Donc, le frère a questionné sur en fait les alphas que celui qui a éternué, on va dire l'éternueur, celui de qui a émis l'éternuement, il loue Allah. Il lui a dit, Ya Rahmukallah, est-ce qu'il y a d'autres phrases légiférées à part Yahdikumullah ou Yaslihubalakum? Chéri dit, il n'y en a pas. Il dit, il n'y a pas d'autres alphas qui ont été rapportés. Le shir, il dit, il n'y a pas d'autres alphas qui ont été rapportés par ça. Il dit donc, tu te restreins aux alphas qui sont légiférés dans la sharia par rapport à ce sujet, tu n'innoves rien de ta part. Et il a ramené le athar de Abdallah ibn Omar qu'il a cité précédemment, où son domestique avait fait des rajouts en disant que Allahumma salli ala Muhammad ila akhiri. Et en plus, et à la quatrième fois, Abdallah ibn Omar ibn Khattab l'avait menacé de le frapper s'il réitérait cette chose-là, car c'était de l'ordre de l'innovation. De ce fait, le shir, il dit, tu adores Allah Azza wa Jal avec les alphas, les propos, les phrases qui ont été légiférées dans ce cadre-là. Tu adores Allah par cela et tu n'ajoutes rien de plus à cela. Non. Il y a une autre question. Pardon.
Il y a un personnage
qui est là. Non. Il y a un personnage qui est là. Il y a un personnage
qui
est là. Il y a un personnage qui est là. Il y a un personnage qui est là. Il y a un personnage qui est là. Il y a un personnage qui est là. Il y a جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من عطس فحمد الله تشمته في الأولى، ثم عطس الله حمد الله تشمته في الثانية، ثم عامد الله ويعني تشمته في الثالثة، إذا عصت في الرابعة يعني زاد على الثلاث تقول مزكوم بس خلاص ما عاد شيء تشميت. ها إذا العطاس والحمد والتشميت يكون في الثلاث الأولى، بعد الثلاث الأولى لا يلزم، وكأنك تنبه تقول له مزكوم يعني خلاص نحن لأنه شمتك بعد الآن، فإذا لم تشمته ما عليك شيء بعد ذلك خلاص. هذه ثلاث مرحلة ثلاث جاءت فيها السنة، من أكثر من ثلاث لا يشمت، وهذا جاء أثر فيه، ولكن الحافظ لم يوردها في هذا الموضوع. جزاك الله خير. تفضل.
الفقه جزا الله خير. نسأل الله عز وجل أن يبارك فيه. Il a posé une question intéressante. Le fait qu'il dit, si une personne elle est enrhumée, la personne elle a atteint du rhume, elle est malade, donc de ce fait qu'on sait que quand la personne est enrhumée, elle va être amenée à éternuer à de nombreuses reprises, bien plus que trois fois. Donc il demande en fait, est-ce que si la personne elle éternue à de nombreuses reprises, est-ce qu'à chaque fois, il loue Allah, et qu'il loue Allah à chaque fois, on va lui dire « Ya Rahmukallah ». Et donc le cheikh il explique que al-tashmit, le fait de dire « Ya Rahmukallah » à celui qui a loué Allah après, suite à un éternuement, il dit « On le fait que pour les trois premières fois ». La première fois, il loue Allah, on lui dit Ya Rahmukallah. Il le fait deuxième fois, il éternue, il loue Allah, on lui dit Ya Rahmukallah. La troisième fois, il éternue, il dit Alhamdulillah, on dit Ya Rahmukallah. La quatrième fois, il va louer Allah, lui, mais on dit Maskoum, il est enrhumé. Le fait qu'il est malade. Donc, de ce fait, le tashmid, le fait de dire Ya Rahmukallah, celui qui éternue, n'est légiféré que pour les trois premières fois. À partir de la quatrième fois, on n'a plus à faire ça.
Abou Skanda. العطس لا بس إذا حمد الله معك لكن لا تشمت لا يلزمك تشمت. نعم هيا اسكندر.
شخص عطس وشخصان آخران أحدهما سمع التحميد والآخر لم يسمع التحميد، ماذا يفعل الذي لم يسمع؟
اللي لم يسمع ما يلزمه، اللي لم يسمع ما يلزمه أن يشمت، أما من سمع وجب عليه أن يشمت لأن هذا سمع. هيا
تفضل. Le frère Azza al-Akhir a posé une bonne question. En fait, Abou Skander, j'ai demandé, c'est, en fait, à chaque fois qu'il éternue, il loue Allah, ça le maskoum.
Après, non.
Donc, la personne qui éternue de nombreuses reprises, même malade, etc., est-ce qu'à chaque fois qu'il éternue, il loue Allah? Le cheikh a dit oui. Puis, la question de son fils, Hafidhahouma Allah Azza wa Jal, c'était quoi? Non, si quelqu'un éternue et il loue Allah Azza wa Jal, puis deux personnes dans l'assistance, dont un l'entend louer Allah et l'autre non, quel est le jugement de celui qui n'a pas entendu? Il dit, cher, il n'y a rien sur lui, il n'y a rien d'obligatoire sur celui qui n'a pas entendu. Quant à celui qui a entendu, la personne éternue est louée Allah, dans ce cas-là, lui, il lui incombe de dire Ya Rahmukallah. Quant à l'autre, il n'y a rien sur lui car il n'a pas entendu cela. Notre question. Ouais.
Est-ce que le fait de dire Yarhamakallah, c'est une obligation collective?
Le cher, il a dit
que c'est une obligation pour tout le monde.
Ça, c'est ce que le cher a dit, c'était pour tout le monde. Mais je vais demander. Le cher, il s'agit de la question. Il a dit que ويحمد الله عز وجل ثم يسمعون الناس كل الناس هل يعني التشميد فرض عيني او فرض كفائي
لا يقول لك يعني حقا على من سمعه كل من سمعه
نعم
ما يسقط له
donc il dit le cheikh il dit ce qui est légiféré c'est que si quelqu'un éternue et qu'il loue Allah عز وجل c'est un haq c'est-à-dire c'est une obligation pour toute personne qui l'a entendu donc toute personne qui est amenée à entendre son frère louer Allah après un éternuement il lui est obligatoire à lui, du fait qu'il ait entendu louer Allah Azza wa Jalla à l'éternuement, de faire un tashmid, de lui dire Ya Rahmukallah. Une autre question? Tamam?
Oui.
Alhamdulillah.
Gala bab, istihbab al-musafa'a. Bab, istihbab al-musafa'a. Bagi min adhan.
Ha? Sadaqa'iq.
Chouf le sual l'akhir li hinak, taht.
Taht?
Akhir wahid.
Hadi?
Hadi.
نسيت يعني ما هي الكلمة يعني الذي بعض الناس يفعلون بعض الطعام وهو ممنوع أن نذكر الله
تجشع يعني
تجشع يعني
ذكرتها أنت؟
أه؟
ذكرتها ولا
ماذا؟
تجشع
نعم فهمت يعني ما معنى لكن نسيت الكلمة يعني تجشع يعني أخت من الأخوات نسأل الله عز وجل أن يبارك فيها يعني تسأل يعني عن صحة بالحديث يعني لا تجشعوا يعني أمام الناس لأن الذين أشبع الناس في الدنيا هم أشد عطشا يوم القيامة هل هذا حديث صحيح؟
أنا لم يمر علي أثر هذا إذا أحد مر عليه نادر سمع شو الأثر هذا؟ ها؟
ابحث لو سمحت
ابحث إذا كان
الله خير. إذا وجدت أي شيء يعني نترجم لهذه الأخت دونك لو شيخ حفظه الله قال له بريزونف سو لو بيان إلى إلى شوزي أون كيسيون دون سور لا سور قال له بريزونف الفاسيت كيلا ماغري Elle demande concernant l'authenticité du hadith qui dit ne rôtez pas en public car les plus repus d'entre vous sera le plus repu d'entre vous sera le plus assoiffé le jour du jugement. Le cheikh il a dit ce hadith ne m'est pas parvenu. Il a dit il n'a jamais rencontré ce hadith là. Donc on a demandé à un des frères qu'elle a
posé. قول للأخت إذا كان عندها ما يثبت صحة الحديث تدلنا عليه بورقة ثانية.
وهي تسأل عن الحكم يعني.
لا لا لا. تخبرنا عن مدى صحة الحديث طلعت عليه.
نعم.
عرفت؟
ما في
الى الان اطلعت على الحديث
يعني عندها الحديث بالعربيه
اذا كان الحديث عندها صحيح تدل على مصدره ننظر فيه
طيب دونك le cheikh حفظه الله تعالى dit si cette sœur elle a l'origine du hadith là يعني d'où il vient de quelle sa référence alors qu'elle ne le fasse pas revenir qu'elle nous fasse pas revenir la référence
نعم شيخنا
نعم
حسن شيخ من البانيا
ايش يقول الحديث ايش الحديث ايش يقول الحديث
عن النبي صلى الله عليه وسلم قد ورد في الحديث عن ابن عمر قال غش رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال كف عنا غشاءك فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة في سنن الترمذي قال الترمذي حديث حسن غريب من هذا الوجه والحديث حسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير
إذن هذا الشيخ الألباني يحسنه بالشواهد لأن الترمذي يقول أنه غريب يعني أنه في ضعف لكن الشيخ الألباني يحسنه بالشواهد إذن هنا نستنبط من هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني نهى إظهار التجشع وما قال دعاء كذا يا نادر لما تجشع هل ذكر ذكر إذن هو تجشع فعلم الرسول منه ذلك فنهى عن إظهار التجشع يعني بعض الناس يكركع قع 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 هذا ما ينبغي ولذلك نهى الرسول وأظهر أن هذا فيه يعني شيء علاقة بأهل النار وهكذا إذن هو لم يأتي بذكر وفعل هذا فنهاه عن إظهار التجشع ولذلك الإنسان ينبغي لا يظهر مثل ما جاء في هذا الأثر جزاك الله خير
طيب. نعم وصلنا إليكم donc la question originelle de la sœur et alhamdulillah pour la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala on a trouvé la réponse wa lillahi alhamd donc la question de la sœur c'était est-ce que le hadith qui dit n'éruptez pas en public car le plus repu d'entre vous sera le plus assoiffé le jour du jugement le frère jazakallah khair après une recherche qu'Allah le récompense et le préserve sur le bien il a ramené un hadith d'Abdallah ibn Omar ibn Khattab dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en présence d'un homme qui érupta en sa présence devant lui de façon ouverte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit alors, préserve-nous de ton roi, yani retiens ton roi, car les gens les plus rassasiés dans cette dunya, dans cette dunya sont les gens qui seront les plus affamés yom al qiyama. Donc par rapport à la formulation que la sœur avait ramenée, sera le plus assoiffé le jour du jugement, il n'est pas rapporté ça, mais il est dit les plus affamés. Et donc le cheikh il dit, il n'y a pas eu de zikr mentionné dans ce hadith après le roi, et il n'y a pas eu d'interdiction liée au zikr, il n'a pas abordé ce sujet là, mais ce qui est voulu dans l'interdiction de ce hadith, ce qui est visé dans l'interdiction de ce hadith, c'est le fait d'érupter de façon ouverte, yani sans aucune manifestation de retenue ou de mettre sa main dans sa bouche ou quoi que ce soit, yani le fait de roter ouvertement. C'est ça qui a été blâmé. Mais quant à l'authenticité du hadith, le hadith est rapporté dans Sunan al-Tirmidhi et l'imam al-Tirmidhi a dit qu'il était gharib, ce qui impliquait une certaine faiblesse dans le hadith. Mais l'imam al-Albani l'a rendu hassan, ce qui implique qu'il l'a rendu hassan par des shawahid, c'est-à-dire qu'il l'a renforcé par d'autres narrations qui font que ce hadith est hassan. Donc ça veut dire que c'est un hadith qu'on doit mettre en pratique.